Dans le tempo, c'est l'épisode 50. On y va.
On y va,
Daz.
On y va enfin.
Mais qu'est-ce que... On y va enfin, on a fait beaucoup de tests avant.
Ouais.
Parce que, il faut le dire, à ceux qui ne regardent pas en vidéo, on est dans un contexte particulier.
Ouais, on n'est pas à la bouclette là.
Moi j'ai vu une porte ouverte comme ça.
Ouais.
On m'a dit, monte, etc. C'était toi.
Ouais, c'était moi. Ouais,
je
me
baladais par hasard et tout, et je me retrouve ici. C'est
on s'est dit qu'on allait marquer le coup du numéro 50 avec une absence totale de moyens.
on revient aux sources.
Voilà, exactement. On revient vraiment à l'essentiel. Deux personnes qui discutent, une seule caméra, deux loupiottes. Deux micros, casques,
bon,
on a une mixette qui est sympathique quand
mais
même.
C'est l'esprit podcast, tu vois.
Voilà, exactement.
La mixette, puis après
parce
à la maison,
on débrouille. Tu es ici, dans l'antre du podcast de qualité, c'est ici qu'on enregistre.
C'est vrai.
Les émissions, ouais.
Mais je me sens tout d'un coup, tu sais, le légataire d'une,
bah oui.
d'une histoire longue et riche.
C'est normal, et c'est normal. Non, pour de vrai, on a enregistré le premier épisode depuis ici, parce qu'avant on le faisait chez l'âme.
Mm-hmm.
Donc on a du matos, c'est pour ça que quand tu m'as dit, est-ce que t'es ok pour qu'on fasse le 50 chez toi, j'ai dit ouais, micro, casque, ça devrait pas trop poser de problème. On a encore 18 à côté, donc on est bien.
Bah écoute, parfait. Pourquoi on le fait ici? Parce que on s'est dit 50e. Alors on allait pas faire un truc de fou et tout, mais on allait marquer le coup. D'autant plus ça tombe en plein été.
Ouais.
Là, tu vois, le podcast va sortir des buts. Bon voilà, on voulait faire ça à la cool, juste tous les deux en fait, pas d'invité. Et se faire un petit bilan.
Et surtout pas de régie, pas de bouclette.
Pas de régie, pas de...
Ouais.
Mais ça me manque.
Pas de Flav, pas de Sam, pas tous ces gens-là.
C'est triste un peu ça.
C'est vrai que c'est triste. C'est vrai que c'est triste. On les big up.
Ouais, on les big up d'une part, et puis si la technique est un peu limitée, nous en voulait pas trop. On a fait comme on pouvait.
Ouais.
On a fait des allers-retours entre la caméra pour avoir le focus.
Ouais,
machin,
non, c'est vrai. C'est là qu'on se rend compte que tu vois, c'est bien d'avoir des cadreurs et des mecs au son. Et,
absolument.
Ouais.
Surtout des gens de qualité comme la bouclette.
Bah,
envie
bien
de
sûr,
dire.
Bien sûr. Alors, bien sûr. SO la bouclette.
SO la bouclette. Bon, ce bilan de l'année, en gros année scolaire, hein, disons 2022-2023.
Ouais.
Bilan à la fois, on commence juste avec un petit bilan du podcast, un peu de ce qu'on a fait, ce qu'on a envie de faire dans le futur. Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre depuis quelques années maintenant. Puis c'est sympa un peu de discuter aussi de l'émission en tant que telle,
bien sûr.
Histoire de nous un peu
émission
bien
que moi j'ai rejoint que à la 25.
Et tu sais quoi, c'est incroyable parce que là c'est la 50e, t'es arrivé à la 25e, pile la moitié.
C'est pile la moitié.
Incroyable.
Ouais.
Ça y est, t'es dans l'histoire de DLT.
Ah bah, ça me fait très plaisir. Là, c'est moi qui me sens légataire.
Ah,
j'ai une tradition
j'espère
ancestrale.
J'espère bien.
Ouais.
Ancestrale, je sais pas, mais on va dire ça, on va dire ça.
Ouais.
Et ouais, donc bilan un peu du podcast en premier temps. Puis ensuite, bilan musical. Parce que l'une des nouveautés, justement, on va le dire dans le bilan, c'est que cette année, on a commencé à mettre des extraits dans l'émission.
Ouais.
Et que.
C'est quand même mieux. Hein.
C'est 10 fois mieux, j'avoue. C'est quoi?
Comment on a fait pour pas le faire?
Non, mais j'ai un regret de ouf. C'était un truc dont je voulais parler dans le bilan. Tu te rappelles, on avait fait un épisode sur la musique arabe. Avec Ajab Ben Boubaker, Vintage Arab.
Bah ouais.
Et en vrai, on a parlé de plein de trucs, plein d'artistes et tout. L'épisode était extrêmement riche. Et des gens en commentaire s'est fait en disant, mais on parle de plein de trucs, on les écoute
on
pas.
On les écoute pas. Bah ouais.
Et j'avoue, c'est un peu dommage.
Ouais, surtout sur ce genre d'invités où il y a
bah
vraiment
de
l'illustration. Tu vois, ce qu'on a fait après, quand on a reçu, comment s'appelle-t-elle?
Pour le R&B. Roda Chococam.
Roda. Voilà, Roda. Là, du coup, on a pu illustrer avec les morceaux et
Bah, c'était trop bien. Parce que vraiment, tu comprends à la fois l'évolution, les différences esthétiques éventuelles et tout. Pas seulement en parler, tu vois, mais l'entendre, c'est stylé. Bon, on s'est amélioré depuis.
Ouais.
Mais, donc, bilan, et on va vous mettre des extraits, tout simplement, de trucs qui nous ont marqué cette année. Alors, moi, j'ai mis de côté pas mal d'albums de cette année spécifiquement. Toi, Daz, il y a aussi des trucs un peu plus anciens.
Ouais.
On va essayer de faire un peu un micmac mélange. Bon, Daz, évidemment, il va nous parler de rap à fond.
Évidemment. Non, mais j'ai d'autres trucs.
T'as d'autres trucs aussi.
Ouais, écoute, j'ai d'autres trucs.
C'est merveilleux. C'est merveilleux. On se lance d'abord dans le bilan.
Allez, vas-y.
Du podcast
c'est parti.
En lui-même.
Ouais.
Let's go.
Donc, moi, je suis arrivé à la 25e.
Tu te rappelles, c'était quoi l'épisode?
Le premier épisode pour moi, c'était, on a reçu Félure et Andro.
Exactement, bien vu. Félure et Andro, avec qui on avait parlé, donc c'est un groupe de rap émergent.
Rap philosophique.
Ouais, et tu sais que depuis, Félure n'est plus prof, a quitté pour se consacrer vraiment qu'à la musique.
Ah, je me posais la question justement.
Parce qu'à l'époque, il était encore prof de philo dans le secondaire.
Ouais.
Je sais plus si c'est collège ou lycée.
Bah, c'est que lycée de toute façon, la philo.
Je suis con, t'as raison,
évidemment. Il n'y a pas au collège.
Absolument. Parfois, d'ailleurs, certains considèrent que c'est une erreur. On devrait voir un peu de philo avant.
Ah ouais?
Ouais.
Moi, je pense qu'on est vraiment pas assez mature. Déjà, même au lycée, c'était compliqué.
Non, hein. Mais tu sais, la philosophie, le philosophe dans la cité, tu sais, qui interroge, pas forcément oui. D'un point de vue théorique et tout, mais qui interroge, qui...
Ouais, enfin, la philo scolaire, ouais. Ça nous demande quand même de recracher des concepts, tu
vois. En vrai, c'était pas si mal, moi, je me rappelle les cours philo.
Ouais. Ouais. Moi, franchement, je me défonçais, hein. Ouais. Ah ouais, moi, j'écrivais genre 2 copies doubles et j'avais toujours 6, quoi. Donc,
dur.
Ouais, bah oui, parce qu'il fallait dire, ah oui, mais là, du coup, je me réclame de l'école de Kant, tu vois, et en fait, non. Bah non, moi je le faisais au feeling.
C'est pas c'était l'école de Common.
C'était la philo, le feeling, tu vois. Mais malheureusement, non, il faut quand même en philo, il faut recracher des concepts. Alors que la police passe, hein. Je sais pas si on l'entend.
Non, on ne l'entend pas
on
du tout.
Pas.
C'est une maîtrise technique totale dans cette émission. Tout va bien.
Bah écoute, on est dans la cité.
Là, pour dire, je suis en train de me demander, est-ce qu'on est flou ou pas à la caméra, tu vois. C'est l'enfer, mais tout va bien se passer. Au pire, l'audio normalement doit être correct.
Oui, voilà, c'est ce qu'on se dira. C'est l'épisode de l'été, ça va, relax.
Donc ouais, Félure Andro, on avait discuté notamment de la place des réseaux sociaux en fait lorsque tu cherches à émerger en tant qu'artiste. Ouais. Est-ce que ça peut te desservir aussi d'avoir des concepts parce que tu sais ils mettaient vachement en avant dans leur marketing, dans leur communication.
C'était toujours le concept de Andro qui demande de quoi on parle aujourd'hui ou de quoi on parle cette
exactement.
Semaine.
Exactement.
Et Félure qui le fait en rappant.
Tout à fait. Ouais. Puis tu sais, le côté Andro, champion de beatbox, le rappeur prof de philo pour Félure et tout. Ouais. Bref, et on avait un peu interrogé tout ça, effectivement, de est-ce que ça. Dans quelle mesure c'est utile, dans quelle mesure ça peut te desservir aussi et tout. Ouais. Épisode intéressant sur le côté un peu plus émergent, effectivement. Mmh.
Et puis en plus, moi, c'est ça que j'apprécie aussi avec DLT, c'est qu'une fois qu'on a fini l'enregistrement, après, on peut rester chillé.
Oui.
Et là, on était resté chillé, je sais pas, jusqu'à 2h du matin.
Ouf.
Ouais, on était resté toute la soirée.
Ouais. Il faut savoir que ça, c'est un truc dont je suis content dans l'émission. Et dès le début, on a instauré ça, d'ailleurs, quand on a commencé à le faire en physique. C'est les invités, on leur dit de venir au moins 1 heure avant de commencer, déjà, l'enregistrement en tant que tel. Et en fait, on passe du temps déjà 1 heure ensemble avant.
Pour les mettre à l'aise.
Ça joue de ouf, je pense, sur la qualité derrière l'émission. Je pense que globalement, on fait des épisodes plutôt de qualité où les gens sont à peu près à l'aise. Ou peut-être les premières minutes, tu le sens, ça parfois, hein, quand tu fais l'interview avec le recul. Sens que les gens, tu vois, ils se détendent à mesure.
Donc c'est important de leur bourrer la gueule avant de démarrer.
Non, par contre, sur l'alcool, on fait gaffe avant. Après, pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent rester boire des coups. Et parfois, effectivement, ça peut durer longtemps.
Ouais, c'est vrai.
Mais ça, c'est. Enfin, je sais pas toi si pourquoi tu fais du podcast, mais moi je fais ça aussi pour ça. Une émission à plusieurs, c'est aussi pour pouvoir passer du temps avant, après avec les autres.
C'est l'intérêt, c'est l'intérêt, c'est l'échange en fait. Moi, je pense que ça aurait pas le même feeling si effectivement les gens. Alors, c'est arrivé parce que il y a des gens, ils avaient juste un planning, un agenda chargé, etc. Mais ça aurait pas du tout le même feeling si les gens arrivaient pile pour l'émission et repartaient pile après, tu vois.
Et en vrai, 90% des invités, ils restent traînés.
Ouais.
C'est juste certains après moi on des obligations et tout ils rentrent plus tôt mais globalement l'envie est là de
poursuivre
un peu les discussions de se caler tranquille. Ça, c'est un vrai plaisir que vous enfin c'est un plaisir pour nous avant tout, hein, on va pas se mentir, mais même pour vous je pense dans la qualité de l'émission ça se ressent et vous en tant qu'auditeur le fait que les gens sont plutôt bien en fait on les accueille bien on essaye en tout cas
avec les chocobons
et
So Kinder encore une marque allemande incroyable
c'est vrai comme Thomann d'ailleurs Thomann notre sponsor d'Az
bien sûr
notre fabuleux sponsor
le meilleur sponsor
on aime.
Le meilleur
ensuite tu sais alors on va peut-être pas s'arrêter sur chaque épisode mais tu vois donc le 25 effectivement t'es arrivé il y avait fait Lurandro on a reçu Laurent de Wild
alors de Wild ou de Wild je sais toujours pas
en vrai je crois qu'il faut dire
de Wild peut-être.
Non je crois qu'il faut dire Laurent de Wild
hein. Moi j'ai envie de dire de Wild aussi et
j'ai plus merde. Comment il le dit lui?
Je sais plus.
En plus, on a enregistré un truc avec. J'ai enregistré un truc avec lui il y a pas si longtemps.
Je sais même
plus. Il le dit évidemment. J'ai honte.
Ouais.
Bon bref.
En tout cas, moi c'était parce que le premier épisode j'arrive, c'est du rap. Alors c'est du rap philo, mais c'est du rap. Donc tu vois, je me dis ça va.
Ça va. Zone de confort.
J'ai à peu près les codes et tout. Ouais. Et là, boum, on passe sur du jazz. Mais truc qui m'intéresse moi. Le mec est un buté de machine.
Ouais.
Du coup, ça rejoint un peu un de mes violons dingues aussi qui est la tech. Et du coup, je m'y retrouve quand même, tu vois. Mais effectivement, là, déjà, on est sur un truc où, en gros, moi, ce nom-là, je le connais, mais de nom.
Ok.
Je sais que c'est un jazzman, etc. Mm-hmm. Mais c'est vrai que j'avais jamais écouté plus que ça, tu vois. Et le fait de me retrouver face à une personne comme ça, en fait, c'est super intéressant. Et je crois que c'est ce qui a marqué le kiff pour moi dans DLT, c'est que je me suis rendu compte que je pouvais en fait passer 2 heures à parler avec des gens, je comprends même pas ce qu'ils, enfin tu vois, je m'étais même pas intéressé à ce qu'ils faisaient, et en fait je tombe dedans parce que quand t'as quelqu'un qui est vraiment à fond dans son sujet,
il arrive à t'emmener avec
lui. En fait,
lui,
tu t'embarques, t'es obligé de suivre en fait. Et moi, c'était un des trucs où je me disais ouais, mais quand ça sera peut-être des invités, tu vois, où moi j'ai pas spécialement d'appétence pour le domaine et tout, peut-être que. Et en fait, non, ça marche.
Bah, parce que les gens passionnants. Enfin, passionnés sont souvent passionnants. Bah ouais, en fait, oui, ça va un peu s'exprimer, tu vois. Et ça, c'est un... de toute façon, y faire gaffe. Hein.
Ouais, non, mais
tous
je veux
les
dire,
gens pour soi, on essaie de faire en sorte qu'ils soient, oui. Tu vois, à l'aise et qu'ils arrivent à transmettre un truc.
Ouais. C'est pour ça qu'on ne reçoit pas de rappeurs qui vendent en ce moment.
Après, en vrai, moi, j'aimerais. Hein. Ouais. Tu sais quoi? Parce que en même temps, quoi, c'est une bonne chose en fait. Tu vois, on remonte le fil comme ça, on fait le bilan au passage des trucs contents, moins contents. On a dit que tu vois, c'était stylé, genre de mettre des extraits maintenant.
Ouais.
Sur les, moi j'aimerais qu'on reçoive effectivement un peu plus d'artistes. Je suis très content de recevoir beaucoup de professionnels de la musique. J'aimerais qu'il y ait un équilibre un tout petit peu, tu vois, plus équilibré. C'est pas, ça se dit pas, c'est pas grave. Tu vois, avec plus d'artistes quand même quoi, globalement, y compris les artistes actuels.
On en a eu quelques-uns.
Pourquoi pas dans le rap ? Bien sûr, heureusement. Mais je pense qu'on peut en avoir plus. Et dans le rap, j'aimerais bien. Mais tu sais quoi ? Il y a des gens. Qui ont un discours aussi dans le rap, tu vois, qui sont capables, pas forcément des trucs engagés ou quoi que ce soit, hein, mais juste, tu sais, en interview, ils ont un peu de recul sur leur pratique,
oui, bah
ils ont
ça.
Envie de transmettre un truc, tu vois, de partager un truc.
En fait, c'est ça le truc, c'est que moi, je parlais avec un artiste qui finalement est tellement focus sur son truc qu'il calcule rien autour. Je l'aime un peu, tu vois.
Tu vois, c'est après, c'est le problème de l'exercice promotionnel aussi. C'est-à-dire qu'il y a plein d'artistes, comme ils sortent un truc, eh ben, on les invite en interview, il y a des émissions qui se font. Je pense évidemment à une émission comme Le Code de Midi Maizy, qui est une super émission que j'aime beaucoup, hein. Mais très clairement, il y a des différences de qualité de ouf en fonction de l'invité.
Tu vois, quand Midi sort les rames pour aller chercher le mec, et c'est compliqué.
Et en fait, il y a des moments où si c'était purement dans une ambition éditoriale, tu l'aurais pas invité en fait cet artiste-là.
Moi, j'aime bien le fait de me dire justement on les prend hors promo.
Grave.
Comme ça, ils ont pas de lessive à vendre et puis grave. Même ils se disent pas faut que je fasse gaffe, tu vois, que je fusille pas ma promo machin etc. Et puis de toute façon, on peut se livrer un peu plus.
Et puis on a une petite résonance en vrai, tu vois. Donc
c'est
pas comparable
vois,
avec.
Si on rentre dans un planning d'artiste en disant bon lundi t'es sur France Inter, mardi t'es chez Libération, mercredi tiens tu passes dans le tempo, tu vois. En fait, la personne sera quand même dans une dynamique, l'artiste sera dans une dynamique. Je fais la promo, quel que soit.
Ouais, ça c'est vrai.
Tu vois, quel que soit le réceptacle, les récepteurs, etc. Je déroule. Et en fait, moi, en vrai, je préfère les prendre hors promo. C'est plus intéressant.
Je suis complètement d'accord avec toi. Et je pense même qu'il y a un élément supplémentaire, c'est que en vrai, quand t'es vraiment dans un contexte promo où t'enchaînes, tu vois, les interviews, trucs comme ça, flemme au bout d'un moment, j'imagine.
Bah oui.
De l'artiste, dire vas-y, c'est bon, j'ai pas envie de parler pendant deux heures. Ouais. Ce qu'on fait, tu vois.
Surtout, effectivement, quand il arrive sur un petit média. Où il dit, en plus, il y a zéro impact en termes de.
Si, j'aurais préféré faire autre chose, tu vois.
Franchement, bah les couilles, tu vois.
Bah ouais.
Alors, ça peut être intéressant, ça peut créer des happenings, tu vois.
Après,
tu peux être l'émission de radio dans laquelle Doc Gynéco propose de bouffer la chatte, tu vois.
C'était chez WFM, non? C'était chez WFM, je crois. Hein.
Ouais, dans une radio. Qui était pas forcément, tu sais, les émissions de radio les plus écoutées, mais.
La vidéo est incroyable, c'est Doc Gynéco qui se vénère avec ce
Doc Gynéco énervé, c'est incroyable. Voilà. Ouais. Mais du coup, voilà, ça peut arriver. C'est-à-dire que les gens se disent, de toute façon, on n'a rien à perdre. Personne regardera le truc.
Oui.
Et puis, du coup, ils peuvent dire des dingueries. Mais nous, on n'est pas spécialement après les dingueries, tu
vois.
Non.
Et puis, on va pas se mentir, les gens en général, parce que ça paraît côté bilan. C'est vrai que moi, je suis content cette dernière année-là. De plus en plus de gens, en fait, d'eux-mêmes me disent, j'écoute l'émission. Il arrive même des gens que je contacte pour les inviter, ils me disent, mais je connais déjà bien.
Ouais, bah ça, c'est cool.
Ça fait plaisir.
Ça, c'est le top. Ça, c'est le top.
Bah, typiquement, tu vois, Césaire qu'on avait reçu, dans le dernier épisode, il avait déjà checké. Fishback, on te rappelle. Alors, ça, c'était quel épisode, Fishback?
C'était en hiver. Il faisait froid.
C'était le 40e. Et Fishback, elle était ultra fan de ce qu'on produit chez Monte-le-Son déjà, tu vois. Donc c'était facile de la voir parce que je lui ai envoyé un DM, fait trop contente et tout. Et ça s'est fait comme
cool.
Ça, tu vois.
Ouais, c'est trop cool.
Et
c'est ça qui est marrant aussi, c'est que ces gens qui littéralement font du son, parce que là t'as parlé de Césaire et de Fishback, c'est des artistes.
Absolument.
Ils écoutent encore des trucs qui parlent de musique.
Et c'est un truc que j'ai observé, c'est très variable.
C'est bizarre, hein, parce que moi je sais que. Par exemple, je fais beaucoup de podcasts.
Ouais.
J'en écoute pas.
T'en écoutes pas.
Je fais beaucoup de streams, j'en regarde pas. Tu vois. C'est-à-dire que quand tu passes déjà du temps à faire le truc, bah quand t'es pas en train de le faire, tu fais autre chose. Tu vois. Enfin.
Je peux comprendre. Après, il y a, tu sais, faire de la musique et entendre des gens en parler, d'autant plus à notre manière. Je pense qu'on fait un truc assez diversifié. Chaque épisode.
Ouais,
chaque épisode est un peu différent. Je pense, tu vois, que ça enrichit un peu l'univers de la musique pour eux, sans être trop redondant vis-à-vis de leur quotidien en tant que musicien.
Ouais.
Tu vois, j'imagine un truc comme ça. Et à l'inverse, il y a des gens, juste ça les saoule, tu vois, de regarder des trucs, de regarder tout simplement des trucs sur YouTube, ou d'écouter des podcasts. Et puis en plus sur la musique, des fois ils ont la flemme, genre. Bah, bah, tu vois, Chrono Music, qui faisait le podcast avant sur les 25, enfin sur les 24 premiers. Et t'as dépassé Chrono avec cet épisode.
Hey, prends ça. Hey. Big up à Chrono bien sûr. Aussi.
En vrai, alors qu'à la base il vient du contenu, dans mes souvenirs, tu vois, à un moment il disait qu'il avouait qu'il commençait à consommer de moins en moins de contenu.
C'est normal, tu vois. En fait, c'est tout à fait normal. Enfin, moi je trouve que c'est normal.
Ouais.
Parce que quand t'es au fourneau, t'es pas au moulin, tu vois.
ouais, c'est vrai.
Après,
c'est
tu peux faire un genre de, tu vois, de veille.
Ouais.
Histoire d'être juste au courant de ce qui se fait, des tendances, machin, etc. Tu vois.
Bah c'est ça. C'est après tu vas peut-être pas tout suivre et tout, mais je pense que c'est toujours bon pour un artiste et il a besoin de journalistes, notamment par exemple, tu vois, pour dire ah ça je connaissais pas, ça il y a ça qui se fait, il y a ça machin, etc. D'avoir un petit cercle.
Oui, mais de là, tu vois, à suivre religieusement des ouais, trucs du début à la fin, tu vois.
Non, ça c'est vrai, j'avoue.
Moi, vraiment, je pars du principe que le dealer, il prend pas sa conso, tu vois. En vrai, c'est ça. Hein. Si tu vends, tu consommes pas.
Écoute, moi, j'écoute des podcasts, je mate des vidéos YouTube. Hein.
Ouais, mais c'est ça qui est bizarre.
mais après, je kiffe.
Ouais. Ouais, non, mais après, toi, c'est vrai que t'es très élitiste aussi, donc peut-être que ça te sert aussi à se dire, ok, ça c'est de la merde, ça aussi, ça.
La vérité. Non, là, c'est plus qu'élitiste, c'est ce genre bâtard, quoi.
Oui, non, c'est du. Mais non, mais.
Genre, je bitch sur
quelle,
le truc.
Quelle proportion de hate watching?
Assez faible.
Ah,
non, okay. Franchement, assez faible. Pas sur les trucs que je regarde régulièrement et tout.
Ouais.
Et il y a assez peu de contenu vraiment que je déteste ou en général je les suis pas plus que ça. Je regarde une fois en disant ah oh, c'est vraiment de la merde et puis après tu vois, je le partage sur le Discord de l'équipe et je fais ah oh, c'est pas ouf hein comme ça. Et puis après c'est bon tu
quel
vois escroc, c'est passé.
Quel escroc.
Non en vrai je suis pas si dur et
si t'es exigeant.
Non, je suis un peu exigeant. Mais ouais. Mais tu vois en fait j'applique au podcast au truc YouTube et tout la même politique que dans toute ma consommation entre guillemets culturelle, ouais. Y compris sur les séries, sur les trucs comme ça, etc. Je pars du principe qu'il y a 4 milliards de trucs dispo,
ouais.
Et que j'ai pas le temps pour écouter des trucs moyens même, tu vois.
Ouais.
Genre, c'est valable sur
tu veux que l'excellence.
Non, n'exagérons pas, ou les trucs où je passe un bon moment, mais tu vois, je prends sur les séries, parce que c'est un peu moins frustrant pour certaines personnes. Enfin, tu vois, là, je pointe personne du doigt, tu vois, du game ou quoi que ce soit. Les séries,
ouais.
Genre, j'ai commencé à regarder The Witcher, la saison 2 sur Netflix. C'est de la grosse merde, mec.
Mais depuis la saison 1 ?
La saison 1, ça passait en mode un peu, tu
ah
vois.
Ah non, ouais. C'était flingué. Ah non, c'était
écoute,
flingard.
En tout cas, à ce moment-là, je m'étais dit, bon, j'ai assez de temps à consacrer à ça.
Ouais.
Là, je peux te dire, en plus, c'est la saison 3 dont je parle là, la toute dernière. Je te jure, j'ai regardé un épisode et demi, j'ai fait, non, j'ai mieux à faire. Ouais. J'ai arrêté, et tu vois, je préfère regarder une autre série, un truc.
Mais en fait, t'as raison, parce que après, tu tombes dans une spirale. Par exemple, moi, j'ai commencé à regarder Hijack avec Idris Elba.
Okay.
J'adore Idris Elba. Hijack, c'est de la merde. Ouais, et j'ai vu trop d'épisodes pour faire machine arrière. C'est-à-dire que maintenant je suis obligé d'aller au bout juste pour confirmer
mais
que c'est
non,
de la merde
mais
du début.
Mais ça tu
à la
vois
fin.
Ça c'est de la perte de temps.
Bah
de
oui,
mec,
mais
pas
totalement
possible.
Mais je suis totalement d'accord. Mais normalement
ça me fait du mal,
quand je sais que je vais perdre du temps, je recommence même pas à regarder le premier épisode. Et là en fait, je me suis dit c'est Idris. Let's go, tu vois, j'ai confiance parce que Luther, parce que The Wire,
mec,
voilà.
T'as vu sa carrière, c'est n'importe quoi Idris Elba.
Bah moi je trouve même dans Pacific Rim, je trouve génial.
Oui, mais derrière, il a fait plein limite des caméos, tu sais où il a pas genre dans Tyler Rec récemment, dans Tyler
C'est vrai qu'il est dans Tyler Rec. Ah ouais, c'est vrai.
Il vient pour le cachet, le mec, c'est rare, alors qu'il est talentueux.
Attends, il fait quoi dans Tyler Rec?
Juste, il fait genre, tu sais, ils ont voulu le faire leur délire un peu, l'équivalent de John Wick.
Ouais.
Tu vois, tu sais, John Wick, c'est genre, il y a un univers un peu, normalement, tu vois, des assassins. Et c'est un peu pareil, Idris Elba arrivant, non, mais je travaille pour quelqu'un, et puis tu ne sais pas ce qui t'attend, et c'est juste à la fin, tu vois, pour teaser un peu un 3, genre, il y a un univers de ouf, en fait, tu vois. Alors qu'on s'en fout, c'est juste un mec qui tue des gens,
c'est très bien, par contre.
Oui, c'est assez stylé, j'avoue.
Et franchement, le premier au Bangladesh, là.
Je l'ai kiffé.
Incroyable.
Ouais.
Excellente surprise.
Ouais, pour du pur film, pour un actionneur
à la con avec un mercenaire, machin.
C'est dans le haut du panier.
Ça va être nul. Et en fait, excellentissime. Donc, comme quoi, on a des surprises.
C'est vrai.
Mais voilà, effectivement.
Mais tu vois, avant de regarder Tyler Rec, j'avais eu plein de retours critiques. J'avais lu des gens. Toi aussi, tu en avais dit du bien, etc. Et je m'étais dit, vu ce qu'on en dit, ça vaut le coup. Et ça valait le coup.
Eh ben, moi, j'ai vu des gens s'enjailler sur Hijack. Je me suis dit, oh, bah, ça doit
pas
être
les
cool.
Bonnes
et en fait, non, mais c'est ça. J'ai regardé, j'ai dit, OK. Mais ça permet de classer aussi les gens, tu vois.
Ouais.
Donc, sur Twitter, j'ai dit, OK. Donc, lui, là, il dit n'importe quoi. Elle, là, zéro. Lui, là-bas, non, c'est pas bon. Tu vois, au moins, tu sais.
Ouais.
Et la prochaine fois qu'ils disent, wow, j'ai vu ce truc-là, c'est génial, je prendrai même pas le temps de, je fais, OK, d'accord.
Et tu sais, en plus, je le précise pour nos auditeurs, parce que c'est important. C'est même pas, genre, j'ai pas le temps, c'est en mode, vas-y, c'est de la yes life, tu vois, je suis entrepreneur dans la vie et tout, tout mon temps doit être optimisé, tous mes fesses, tu vois, ça je m'en fous. C'est juste en fait le temps, je passe déjà beaucoup trop de temps devant un écran.
Ouais.
Et j'aime bien regarder des séries et tout, tu vois, et je renonce pas à ces plaisirs-là, c'est pas de la perte de temps pour moi de faire des trucs à la maison, de chiller, etc. Ça te nourrit en réalité, tu vois. Mais c'est juste, il y en a tellement d'autres, et je sais que j'aurais pas le temps de tout regarder, essayons de privilégier ce qui est pas mal.
Ouais, puis ah, mais non, après, moi, je sais que j'ai des fois, je me dis, là, j'ai envie de regarder une série, mais un truc turbo con. Ouais. Tu vois, je veux pas regarder genre La Servante Écarlate ou des trucs qui te foutent dans le mal après et, ça, je peux comprendre. Et tu réfléchis à la vie. Tu vois, des fois, tu te dis, j'ai envie de regarder un truc de merde, un truc léger.
Oui, mais tu sais, ça, c'est un truc, c'est un débat que j'ai toujours eu avec, avec beaucoup de gens d'ailleurs. C'est quand je dis quelque chose de qualité, je parle pas forcément d'un truc intello.
Non, mais un truc bien fait.
Exactement. Et en vrai, il y a des, on parlait d'actionneurs bien faits, c'est le cas Talorek par exemple, tu vois. Et il peut y avoir des trucs, comme, tout comme je peux aimer de la musique de débile, je le dis régulièrement, tu vois, ça c'est de la musique de débile. Mais c'est pas un truc de, où j'ai hiérarchise en disant, c'est en dessous du reste. Non, j'ai besoin aussi de ce type de musique-là. C'est juste, voilà, c'est adapté.
Ouais, mais en
à
fait,
des
le problème c'est à quel curseur tu mets le bien fait. Parce que si je reprends l'exemple de la série Hijack.
Ouais.
Plastiquement, esthétiquement, c'est parfait.
Ouais.
Au niveau du casting, c'est cool. Bon, il y a 2-3 acteurs, tu sais pas pourquoi ils sont là, mais ok. Mais je veux dire, tu vois, tout est propre. C'est une série Apple Original. Tu te dis, ah ouais, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est vraiment dans le propos.
Ouais, ça dit rien.
Dis, c'est nul. Ouais. C'est nul dans les enjeux et tout, c'est nul. Mais si tu la regardes comme ça, juste tu passes devant l'écran à la Fnac, tu fais, oh, ça a l'air cool, tu vois. Ouais. Donc, c'est un truc qualitatif ou pas?
Écoute, il y a peut-être un savoir-faire formel, mais si ça dit rien,
quoi. C'est ça le problème. Donc Laurent de Wilde, oui.
Les fous du son évidemment, son bouquin. Franchement, je suis très content de cet épisode. Des histoires humaines et tout sur des gens
très cool.
Derrière les grandes créations.
C'est un bon client aussi, Laurent.
Mais de ouf. Franchement, on a tourné là un nouveau format. Ouais. C'était le premier invité. Putain, le mec, tu le laisses en roue libre. Il te fait l'émission tout seul.
C'est ça.
Incroyable.
C'est bien aussi justement, et je crois qu'on n'a jamais trop eu le cas, en tout cas sur les 25 épisodes où moi j'étais, même avec des gens où je connaissais pas forcément l'univers, je connaissais pas ce qu'ils faisaient, la proposition artistique, etc. On n'est jamais trop allé les chercher.
Non.
Généralement, ils sont peut-être un peu timides au début, comme t'expliquais.
Ouais.
Mais après, tu vois, quand le moteur il est chaud, ça déroule tranquille en fait.
Il y a un truc, déjà j'essaye, la plupart des invités, alors ça peut parfois un peu limiter les choses, mais c'est pas une condition sine qua non, mais je regarde s'ils ont déjà fait d'autres interviews et je vais regarder des vidéos, voir comment ils sont à l'aise pour s'exprimer.
C'est un vrai travail de scout.
Ah, franchement, parce que c'est trop important. Tu peux pas te retrouver avec quelqu'un et qui n'a jamais fait ça et qui est en stress total.
Ouais.
Et en fait, la personne peut être ultra compétente, mais ne pas être capable de transmettre cette compétence, tu vois. Enfin, l'exprimer auprès d'un public, quoi. Mmh. Donc, non, toujours, je vais regarder, en général, tu te fais très vite une opinion si la personne a déjà participé à des choses. Et si elle n'a jamais participé à quoi que ce soit, je lui passe un coup de fil. Et je vois déjà au téléphone comment je la sens, la personne. Mmh. Et parfois, juste parce que je sais que c'est quelqu'un d'extrêmement compétent, il y a une petite prise de risque. Et puis voilà, on voit bien comment ça se passe pendant l'émission. Il y a un peu de montage derrière et tout. On n'est jamais tombé sur des gens catastrophiques. Et tu vois, par exemple, alors épisode, je regarde là sur mon truc. Tu te rappelles de The Algorithm?
Ouais, mais je pense
épisode
à lui,
43. Rémi, c'est quelqu'un de... quasi timide, ou en tout cas t'es de très calme, de poser un peu sur la réserve entre guillemets, et c'est vrai que alors il avait participé déjà à des petites interviews etc, et je me disais putain, il est ultra intéressant, mais j'ai peur qu'il soit pas ultra enthousiaste,
il fallait le chercher,
qu'on rame un peu, et on l'a fait quand même parce qu'il avait l'air de très bien maîtriser son sujet, il avait
je trouve que ça s'est bien passé,
une vraie patte artistique, il avait une vraie vision, puisqu'on a découvert au fur et à mesure, tu sais, de la vie, de l'équilibre entre le travail, parce que en gros lui il disait non mais moi je vivais de ma carrière artistique, j'ai décidé de mettre un peu le holà, d'y aller plus tranquillou, je fais mon travail de développeur d'informaticien en parallèle, et comme ça je trouve un équilibre dans ma vie qui me convient parfaitement, alors qu'il pourrait vivre que de la musique, quoi.
Ouais.
Bah, j'avais trouvé ça passionnant.
Carrément. Ouais.
L'Oxley aussi avait un peu alors ça, l'Oxley, c'était l'épisode 39.
C'était deux épisodes avant, trois épisodes avant.
C'était un hasard déjà qu'on reçoive l'Oxley.
C'était un dépannage de dernière minute, parce que justement l'invité prévu nous avait un peu planté.
Absolument.
Et j'étais avec lui. Donc je lui ai proposé et vraiment
L'Oxley, rappeur belge,
ouais,
du groupe
du commun. Ouais, donc rappeur de Bruxelles, je sais pas comment ils disent Bruxelles,
les Belges disent.
Non, ils disent Bruxelles.
Ah, je crois qu'ils disent Bruxelles.
Ouais, je suis pas sûr.
Sérieux? Ah,
justement, en fait, les gens disent
dans
Bruxelles.
Les commentaires, est-ce qu'on prononce Bruxelles ou est-ce qu'on prononce Bruxelles?
Je crois que Robin m'avait dit les gens qui prononcent Bruxelles, c'est pour essayer de faire plaisir aux Belges, mais du coup
c'est vrai.
Ouais.
Ah, je serais complètement dans le faux alors.
Bah, en tout cas, ils disent XL, ils disent pas Issel. Pour la ville à côté de Bruxelles. Donc, puis un X, ça se prononce les X.
Eh bien, écoute,
on n'est pas des Flamands.
Ma vision est complètement bouleversée, je ne sais plus quoi penser là, c'est terrible.
Non, mais en tout cas, voilà, effectivement, là, ça s'était vraiment fait au débeauté, on était ensemble pour faire des photos, des images et tout, et je lui ai proposé de remplacer donc l'invité, et au pied levé, et il a fait OK, let's go, et voilà quoi.
C'était intéressant parce qu'on avait parlé justement de toute cette scène bruxelloise,
ouais, un des deux. Du rap et
du rap extrêmement important. Damso, Hamza, Kaba et Jean Jass,
Isha. Et puis le fait aussi que lui ne se voyait pas,
ouais,
comme un artiste solo.
Ouais, c'est vrai.
Ça, c'est super important et intéressant à entendre parce que tu vois, je me faisais la réflexion, je sais plus avec qui j'en parlais, mais je me faisais la réflexion qu'il y avait plus trop de groupes de rap en vrai. À part des duos genre PNL, et donc tous les trucs à trois consonnes qui tournent dans leur entourage, en fait, souvent, t'as un artiste solo, en vrai.
C'est vrai, et en même temps, tu as... Je pense que les deux derniers gros exemples, surtout qu'on t'a déjà parlé d'ailleurs parfois dans le podcast, dans mes souvenirs, les deux derniers gros exemples, c'est Section d'Assaut et 995,
tu vois. Bah ouais.
Bon, en tout cas, le collectif, lui, il est pas mort. Alors, c'est peut-être pas des groupes, ils se retrouvent, tu sais, sur des morceaux dans au sein du collectif, tu vois, plusieurs et tout.
Non, mais souvent, 6, 7, non, souvent, justement, ouais, souvent, le groupe...
Lyonzon.
Et le truc qui permet au rappeur d'émerger.
Ouais.
Et ensuite, il fait une carrière solo. Et souvent, en fait, quand il te parle de son groupe, c'était à l'époque où il vendait rien. Ouais. Tu vois? Ouais, genre, Niska, oui, il a commencé dans un groupe, qui rayonnait peut-être sur l'Essonne, tu vois, et l'Île-de-France. Mais bon, sans trop de gros succès commerciaux. Et une fois qu'il est sorti solo, là, d'un seul coup, il s'est révélé, tu vois. Donc, en fait, des artistes qui sortent du groupe pour faire une vraie carrière solo, il y en a beaucoup.
Ça, c'est sûr.
Mais des artistes qui sont dans un groupe, qui restent dans un groupe, et qui, comme Robin, par exemple, te disent qu'ils n'envisagent même pas de faire un solo, je pense que là,
tu vas
rebrousse-poil de l'industrie et du sens du business.
Surtout, ce que j'avais adoré avec le cas de Robin, c'est qu'en gros, il nous avait dit... Mais moi, les gars, j'ai rien à dire pour un album solo.
Ouais.
Il avait dit, j'ai rien à dire. J'ai
plus rien à dire. Ouais.
Idéalement, quand on écrit des morceaux, notamment les lyrics, mieux vous essayer de dire quelque chose. Et lui disait, là, j'ai rien à dire sur le moment. J'ai plutôt allé m'exprimer d'une autre manière qu'en écrivant des paroles de chansons.
Notamment en réalisant des
documentaires. Des documents. Absolument. Ouais.
Et effectivement, ça aussi, c'est un truc qui est très intéressant à entendre. C'est que, surtout sur certaines musiques qui sont des musiques un peu de transition, de passage à l'âge adulte, etc., c'est très difficile, notamment dans le rap, une musique très jeune, c'est aussi bien dans l'auditoire que dans les gens qui la font. C'est super dur de quoi tu parles quand t'as 40 ans et que t'es à l'abri, tu vois, et que, en fait, t'as plus la rage, ou t'as moins la rage, ou t'as moins de trucs revendicatifs à dire, ou simplement tu t'es calmé aussi parce que t'as grandi, tu vois, t'as mûri, et où tu dis, ouais, effectivement, et c'est marrant parce que même Snoop disait ça. Il disait, mais moi, les gars, j'ai plus de 50 berges, je fais mes trucs, je suis archi à l'abri. Il y a certains morceaux, si on me demandait de les refaire aujourd'hui, je les referais pas, tu vois. Limite, le mec, il était peut-être un peu honteux, tu vois, de certains titres qu'il a pu faire.
Mais ça c'est une bonne chose, hein, que
ouais, bien sûr,
que
mais
20 ans après on n'ait pas le même regard et qu'on se dise j'aurais peut-être pu mieux faire.
Oui, mais le problème, tu vois, là je regardais, j'ai vu passer un avis sur Twitter là-dessus, justement, où il y a Drake qui a participé à un podcast.
Ouais.
Apparemment, le podcast est allongé sur un lit, donc on y est presque, tu vois. Okay. Là, c'est un canapé, mais donc apparemment, voilà, et il disait, ouais, je comprends pas comment ce mec-là, du coup, il peut faire un podcast ultra chillos dans un lit, tu vois, tranquille, où tu vois que le mec est cool, et puis après, le morceau d'après, quand t'écoutes un de ces morceaux qui vient de sortir, c'est un mafioso, machin, il dit, ouais, c'est pas normal. Et en fait, le problème pour moi, dans certains genres musicaux, et notamment dans le rap, c'est ça, c'est que on ne fait pas la distinction entre ce que l'artiste donne à voir dans sa performance et sa proposition artistique par rapport à ce qu'il est réellement.
Ouais.
Et il y a absolument personne qui aurait cassé les couilles à un Vianney ou tu vois, un artiste de variété en
c'est
mode dis donc, t'es moins amoureux que dans tes morceaux, tu
mais
vois.
Est-ce que c'est pas aussi je pense qu'il y a d'un côté l'extérieur qui renvoie cette image au rap en leur disant vous faites les gangsters, vous êtes des gangsters, vous faites la promotion des gangsters, tu vois, ou de la drogue ou je ne sais quoi. Et en même temps, le rap, c'est aussi tirer une balle lui-même dans le pied, puisque l'authenticité, la question de réellement rapper ce qu'on a vécu, notamment en France, c'est un truc qui a toujours été extrêmement important.
Ouais.
Genre avoir des ghostwriters. Alors aux États-Unis, ça se faisait beaucoup. C'était quand même pas non plus la classe ultime. En France, je pense que c'est quasi... Enfin, tu vois, ça s'est fait aussi. Mais là, c'est la honte. Enfin, tu vois, tu demandes pas à quelqu'un d'autre d'écrire tes lyrics pour toi. Tu vois, normalement, c'est ton vécu. Tu vois, ça doit être personnel.
Oui, mais après, ça peut être ton vécu. C'est juste que tu sais pas l'écrire.
Ça c'est vrai. Non mais en vrai,
ça aussi, tu vois.
Moi je suis pour qu'il y ait un pool de gens qui aident.
Pour moi le ghostwriter, c'est celui qui te donne le texte et le thème et tout sans aucun input de ta part. Effectivement, là, autant qu'il le fasse lui-même, tu vois. Sinon t'es un Milli Vanilli, toi. Mais par contre, réf à l'ancienne. Mais par contre, effectivement, si le gars, en fait, tu sais que toi tu luttes et que tu donnes des éléments et il y a quelqu'un qui est chargé de l'écrire et de le faire rimer, etc. À la limite, pourquoi pas, tu vois.
Moi, je suis complètement d'accord.
Ouais, mais, enfin,
on
mais
le fait
c'est
dans
vrai
toutes
que
dans toutes les autres musiques qui sont autour de professionnels, de machins pour les aider et tout, c'est pas un problème, tu vois.
Mais ça, tu vois, on dit plus ghostwriter, mais t'as la notion de topliner, tu vois. Maintenant, on sait que sur certains trucs, on va chercher des gens. Ouais, mais tu vois, c'est genre, ah ok, pour le refrain, on va prendre ce gars-là parce que tu vois, il sait faire des mélodies, machin, etc. Et en fait, petit à petit, on y arrive.
Oui, mais parce que en fait, on va pas vendre ensuite la personne comme l'auteur interprète, tu vois. On va pas te dire, on a conscience qu'il y a juste des interprètes et puis qu'il y a des gens qui l'ont aidé à écrire la chanson, machin, etc. Dans le rap, en théorie, t'es auteur-interprète, quoi.
Mais après, enfin. On cherche l'authenticité, ça peut être aussi parler de ce que tu as vu.
Mmh.
Plus bien que sûr. De ce que tu... Parce que souvent, les gens, pour eux, l'authenticité, c'est parler de ce que tu as fait. Mmh. Et si tu ne l'as pas fait, tu peux pas en parler. Mais en fait, t'as plein de gars qui rappent de trucs qui se sont passés dans leur quartier, des histoires qu'ils ont entendues, sans que ça soit eux qui soient spécialement acteurs de ce truc-là, tu vois.
Évidemment,
Moi, je vois un rappeur comme Nas, qui a un vécu incroyable. Nas, c'était pas un gangster, tu vois. Mmh. Juste, il a grandi dans le Queens. Et en fait, c'est un journaliste, le gars, tu vois, il rapporte les histoires du ghetto, et le truc, c'est qu'en France, effectivement, on sait pas faire ça. Il faut que tu sois acteur. Il faut que tu sois le grossiste. C'est pour ça que là, maintenant, tous les rappeurs français, c'est des grossistes de drogue dure, hein, concrètement. Ils sont tous grossistes. Il y a plus de grossistes que de clients. C'est comme le podcast. Il y a plus de podcasteurs que d'auditeurs, tu vois. Mais le rap français, c'est ça, les gars. Il y a beaucoup plus de vendeurs de drogue que de consommateurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois? Est-ce que les prix baissent?
Je ne sais pas.
Mais.
Voilà. Ah, peut-être que c'est de l'autre côté.
Et quand bien même, il mentirait. Est-ce que c'est grave?
Non. Mais c'est vrai que c'est un vrai questionnement. Il faudrait qu'on en discute avec des artistes de rap, tu vois, avec des rappeurs. Quel rapport à la véracité, à l'authenticité, etc. En fait, c'est un débat ancien d'ailleurs dans le rap en réalité.
Ça a toujours été le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tu vois des artistes qui se masquent.
Ouais.
Tu vois, Kekra, Ziak aussi, je crois.
Oui, t'as aussi Kershak. Ouais. Masqué aussi.
Bah, je pensais plus à Kershak plutôt qu'à Ziak, en fait.
Mais, peut-être.
Donc des mecs, ils sont cagoulés. Et je pense que c'est justement pour qu'on arrête de leur casser les couilles, en vrai. Certainement aussi, parce que, de base, c'est certainement des gars qui viennent pas forcément des quartiers les plus dangereux ou qu'on fait les trucs les plus ouf.
Tu sais quoi, je crois qu'il y a surtout aussi un truc de conscience avec l'avènement des réseaux sociaux, la surprésentation de l'image, etc., que l'anonymat, c'est pas si mal.
Ouais.
Je crois qu'il y a aussi beaucoup ça qui joue chez eux.
Moi, je pense que c'est des gens qui auraient peut-être du mal à assumer les lyrics.
Ah ouais?
Parce que souvent, les mecs cagoulés, c'est ceux qui sont le plus dans le hardcore. Et je pense que des gars comme ça, il y a un potentiel que des mecs de la ville où ils ont grandi, où ils ont vécu,
tu penses,
viennent leur casser les couilles en mode, ah, mais dis donc, t'étais pas comme ça la fois où, tu vois.
Il y a quel âge criminel aussi qui a presque tout le temps la cagoule.
Oui, mais lui, on connaît sa gueule.
Oui, on connaît sa gueule.
Ouais. Lui, c'était vraiment un truc de style. Les autres, je pense que c'est vraiment pour se protéger et pour éviter de se faire emmerder en fait par tous les chiens de la casse.
Franchement, alors je mets pas complètement de côté ton hypothèse, c'est possible, mais j'avance quand même aussi l'hypothèse de la recherche d'anonymat en se disant, en vrai, quand t'es reconnu dans la rue, machin, etc., c'est pas si cool.
Moi, je pense que c'est, il y a ce truc-là, mais je pense vraiment c'est pour éviter justement d'être reconnu dans la rue par des gars d'avant. Tu vois, qui vont te faire chier, en fait.
C'est possible.
Parce que personne a été un Pablo Escobar dès la maternelle, tu vois. Ça se construit. Une carrière.
Après, il y a des narcotrafiquants. Sont rappeurs et narcotrafiquants en parallèle. Hein,
De moins en moins, je pense. Hein.
Bon, de toute façon, on peut pas, en vrai, là, ça fait déjà une demi-heure qu'on record, en vrai. On va pas reprendre chaque épisode, mais on pourrait citer, donc, on avait parlé de, tu sais, l'épisode après Laurent de Wilde, on avait fait avec JB Anak.
Mais oui,
ça, incroyable. Ça, le chien, génial.
Incroyable. Avec Alfort, de Maison Alfort. Bah, bien sûr. Ouais, franchement, incroyable. Bouquin incroyable. Le mec aussi, c'est pas pareil. C'est de la musique, moi, dit Damage, j'ai jamais écouté ça. Ouais. Ça, c'est pas un style qui me parle.
Donc, il vient de la musique électronique avec Damage.
La musique électronique,
Esprit punk.
Un peu, punk, gritty, grimy, plutôt crado, tu vois, versus headbanger, tout le monde est propre et ça sent le savon, tu vois. Ouais. Et en vrai, son histoire et même sa démarche artistique.
Passionnant.
Comment il raconte, comment il fait les sons, où t'as vraiment l'impression que c'est juste la cacophonie et tout.
De toute façon, JB, c'est un artiste complet. Tu sais qu'il dessine beaucoup, il peint, enfin, il fait plein de choses.
Oui, j'ai vu, parce que du coup, je le suis sur Insta.
Ouais.
Et c'est
la définition un peu de l'artiste, tu sais, du mec qui a besoin et qui en a besoin, surtout, tu vois.
Ouais.
Et qui fait plein de choses comme ça. Et même dans la littérature, puisqu'il a écrit quand même, tu vois, ce bouquin, Sale Chien, qui est une fiction, mais qui se repose
essentiellement. Auto-fiction.
Ouais, c'est ouais. ça. Où c'est quand même son vécu, juste un légèrement romancé pour les besoins de la littérature, tu vois, je veux dire.
Ouais.
Mais bah là, il est, je trouve qu'il a été très bon aussi, parce que son ouais. bouquin est génial, et il raconte effectivement ce parcours.
Les tournées fauchées, moi, c'est ça.
Les tournées fauchées, ouais. génial. Avec que des histoires de malades à
ouais.
chaque fois.
Ouais.
Et c'est pas que l'anecdote des histoires de malades, c'est rigolo, machin et tout. C'est aussi le lien qui l'unissait à son frère, malheureusement ouais. décédé aujourd'hui, parce qu'ils faisaient de la musique ensemble, et qu'ils ont fait ces tournées complètement folles, délirantes ouais. ensemble. Enfin, moi j'invite vraiment tout le monde, si vous voulez. J'ai déjà eu plein de fois dans cette émission, mais
ouais, Sale Chien, vraiment très très cool. Et donc ouais, super invité, et encore une fois, univers que je connais pas, et ouais. le mec qui vient de chercher, il t'amène dedans, et après tu trouves des points communs. C'est ça qui est intéressant, ouais. c'est que tu trouves toujours, après, quel que soit le milieu, le truc, tu vas trouver des points d'accroche pour justement ouais. t'associer en fait au parcours de l'artiste et comprendre
bah ouais.
le contexte et machin.
En vrai, moi je t'avoue que je suis partisan du dans la vie tout est potentiellement intéressant.
Bah ouais,
franchement, ouais. tout est intéressant. Il suffit d'avoir quelqu'un qui te fait comprendre pourquoi c'est intéressant. Mmh. Et en vrai, tu peux t'intéresser quasiment à tout.
Non, mais en fait, c'est ça. Si les personnes t'embarquent, et moi je dois dire que jusqu'à présent, parce que je me disais forcément, tu fais des émissions comme ça, il y aura des up, il y aura des down, tu vois, c'est normal. Ouais. Mais en vrai, j'ai
assez peu. Hein.
Ben, j'ai pas, moi, de sur les 25 que j'ai fait, je peux pas dire ouais, là c'était pas ouf. Tu vois.
Non, enfin, je vais pas le dire publiquement, mais il y a des épisodes dont je suis un peu moins content, tu vois.
Ouais. Oui, mais c'est parce que la lumière derrière était pas de la bonne couleur.
Non, alors, il peut y avoir des éléments techniques. Non, mais je
très
pense,
exigeant.
Je pense même en termes de contenu, parfois, tu vois, je parle pas d'un épisode précisément, j'ai pas envie de faire ça, mais où tous les deux, moi avant tout, on aurait pu être un tout petit peu plus critique vis-à-vis de la personne qu'on recevait,
ou
la mettre face à des choses, tu sais, où le discours qu'elle tenait était extrêmement positif, et dire « Ah mais attends, tu
ça c'est trop... » Ouais, je vois de quel épisode tu parles.
Il y en a d'autres, il n'y a pas que celui-là.
Ok. Mais en fait, c'est vrai que moi, je me pose la question, parce que je suis quelqu'un d'assez piquant,
ouais.
s'il faut.
Ouais.
Mais quand je suis avec DLT... Il y a vraiment une démarche de bienveillance aussi, tu vois.
Mais c'est pas incompatible.
Non,
ouais,
mais
pardon.
Tu vois, on peut aborder les sujets, mais si en fait tu vois que la personne elle esquive une fois, tu relances gentiment, elle esquive une deuxième fois.
Bien sûr.
Bon, tu te dis ça sert à rien de lui courir après. Pour,
non, ça
tu
t'as raison. Bah, de toute façon, parce que là on va pas me parler de manière cryptique. Franchement, je pensais pas qu'à cet épisode-là, mais très clairement l'épisode avec les profs de musique.
Bah oui, bah, je savais que tu
j'avais cet épisode ouais. en tête. Y en a d'autres, hein, c'est ouais. pas spécifiquement celui-là honnêtement. Moi, j'en suis extrêmement fier parce que j'ai appris plein de trucs. Je pense qu'on a découvert ce métier d'une ouais. autre manière. Après, il en ressortait quand même, c'est vrai, un tableau globalement extrêmement positif pour la profession. Or, je suis persuadé qu'il y a des questions, notamment de moyens techniques et économiques, qui sont
en fait,
pas les mêmes
pas,
en fonction des établissements.
C'était pas tant la
ça.
Profession. Parce que ouais. la profession, ils étaient assez directs et tout. C'était plus sur le ministère, le rapport au ministère, le rapport à la hiérarchie. Mais.
Et les moyens dans les établissements.
Et les moyens. Mais évidemment, d'un autre côté, on invite la vice-présidente de l'association de représentation des...
Mais c'est pour ça que c'est pas... Parce que je pense quand même, j'espère en tout cas que dans l'émission, on a un peu mis face parfois à des trucs. Eh, vas-y, on fait pas de la publicité non plus pour ouais. la profession, il y a des trucs qui vont pas aussi.
Bah, on était allé la chercher.
Bien sûr, on a dit, il y a des établissements pauvres quand même, non, ça existe ouais. ou pas. Bon, et effectivement, à chaque fois, ils relativisaient un peu ça, parce qu'ils cherchent à défendre leur métier, qui bah, est malmené en général, et ils ouais. ont raison, je les comprends. Mais tu vois, t'as raison, il faut pas aller derrière, à partir du moment où t'as lancé le truc. Il faut rester dans la bonne entente, machin, etc. Mais peut-être que tu peux mieux constituer ton plateau à la base, par contre, tu vois.
Ah, bah alors ça, c'est une
autre
question. Tu
vois, en amont, tu peux te dire, mais c'est un métier, c'est très difficile à faire en réalité. Hein.
Ouais.
Quand t'as un sujet un peu plus, on l'aborde assez peu au final, un peu plus politique ou un peu plus touchy, entre guillemets,
ouais.
Peut-être que tu peux te dire, bah, j'ai une personne qui va défendre un peu plus la profession ou l'institution, et puis
oui,
une autre en parallèle.
Plateau.
Tu sais qu'elle envoie, et t'essayes de garder une forme d'équilibre comme ça. Par exemple. Mais c'est très difficile à faire,
honnêtement.
Et ouais. C'est pas après le
ouais, c'est pas non plus de créer un plateau pour lancer des polémiques, tu vois. Là, effectivement, en fait, on avait deux profs d'éducation musicale qui étaient ultra fiers de leur métier, ultra contents de l'exercer. Ouais. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, moi, je les écoutais, je me disais, waouh, j'ai jamais eu ça, moi, en fait.
Ouais.
Mais en même temps, moi, j'étais à l'école il y a très longtemps, donc peut-être qu'effectivement, entre temps, ça a bien changé, tu vois.
Et en vrai, je suis persuadé que ça. En fait, tout ce qu'ils ont dit, je les crois.
Ouais.
Et je pense que c'est la réalité. Mais qu'il y a une autre réalité aussi.
Non, mais il y avait un petit peu ouais. bah, de langue de bois, parce que c'est normal.
Ouais.
Parce que,
oui, c'est vrai.
En l'occurrence, en tant que vice-présidente de l'asso des professeurs d'éducation musicale, elle peut pas se permettre de shooter en disant par exemple, ah bah oui, Dans ce lycée-là, ils mettent le proviseur fait zéro effort et il y a zéro thune, tu vois.
Où il y a plein de profs vraiment nuls de musique.
Ouais, tu vois, tu peux pas, c'est normal. Ça, je comprends que, tu vois. Mais effectivement, dépeindre, enfin, voir le verre toujours à moitié plein plutôt que la partie à moitié vide, effectivement, bah, quand ça arrive et que toi, tu dis, ouais, mais là, regarde, il est pas que à moitié plein. Hein. Quand tu vois que la personne, elle évite l'obstacle. Ça sert à rien de la braquer.
Je suis complètement d'accord. C'est pas le but. Mais de toute façon, on n'a jamais cherché ça dans cette émission, les polémiques ou quoi.
Oui,
que ce
voilà,
soit.
C'est ça.
C'est juste faire en amont. Et j'ai même envie de te dire, en vrai, sur le sujet, là, spécifiquement sur ce sujet, je suis pas gêné d'avoir fait une émission où on essaie de valoriser ce métier. Parce que globalement, ils ramassent ce métier. Et les profs, ils ramassent globalement.
Beaucoup. Hein.
Tu vois, si on avait fait une émission dithyrambique sur un truc déjà ultra favorisé, machin, ultra valorisé à côté et tout.
Oui,
alors que nous, on sait qu'il y a des problèmes et que on participe, tu vois, au truc global de c'est génial. Là, j'aurais été plus embêté. Mais tu vois, si c'est pour défendre un truc un peu malmené, moi, je suis content en vrai. Je m'en fous. Tu vois. Enfin, tant qu'on essaye, évidemment, il faut garder un regard critique et tout. Et j'aurais préféré avoir sur le plateau un invité qui maîtrise très bien et qui, à des moments, pouvait dire non, c'est vrai qu'il y a des établissements où là, on n'arrive pas à avoir les moyens et il y a un problème politique aussi. Tu vois, juste le dire clairement. Juste ça. Je préfère ça quand même, mais je suis content aussi qu'on puisse valoriser des métiers.
Oui, oui, oui. Moi, c'est globalement. Enfin, encore une fois, je suis sorti de là en ayant appris plein de trucs, tu vois. Et effectivement, à un moment donné, ils donnaient même envie d'avoir des cours d'éducation musicale, tu vois. Donc je me dis, ils arrivent quand même à transmettre ce truc-là. Et
bah, c'est qu'à leurs élèves, ils leur donnent certainement envie. Ouais, c'est trop bien, tu vois.
Ça, c'est l'essentiel, ouais.
Ok, bon, alors il y a eu plein d'épisodes encore. Pierre Lapin, sur la musique sur Twitch.
La musique sur Twitch, un sujet en constante évolution.
Et tu sais, d'une part, on peut en parler un peu pour l'avenir du podcast et tout. En vrai, ça fait limite 6 mois, 1 an qu'on en discute de pourquoi pas faire le podcast en live sur Twitch.
Ça fait 25 épisodes à peu près.
Techniquement, en fait, on est déjà prêt parce que avec la bouclette,
on peut le faire.
On peut le faire. Et la façon dont on anime le podcast, en fait, il y a un petit peu de montage, mais c'est juste. C'est vraiment pour enlever les petits silences à des moments, les petits temps morts légers ou quand quelqu'un veut aller aux toilettes. Mais
globalement, c'est enregistré dans les conditions du direct.
Absolument. Et on garde la quasi-intégralité des paroles de chacun. Donc, on serait en capacité, y compris pour l'animation, de le faire en live. Moi, j'hésite beaucoup, je t'avoue.
Bon, moi, le truc sur lequel moi j'ai dit que y a quand même un facteur à prendre en compte, c'est que si tu le fais en live, c'est pour interagir avec l'auditoire.
Ouais.
Et que du coup, si tu commences à lire le chat pendant que tu discutes avec l'invité, parce que c'est vrai que souvent, quand on finit l'émission après 1h30, 2h, 2h30 de discussion, les gens, souvent, même les invités, ils disent waouh.
Ah, on a été rincés, alors.
Vous êtes focus et tout.
Ah oui, en plus, oui.
Tu vois, vous rebondissez, vous vous rappelez de ce qui a été dit, vous en servez pour rebondir, machin, etc. Et c'est vrai qu'en fait, ça, c'est un truc où, dès qu'on lance, moi, je suis dans un tunnel. Je vois plus rien, en fait. J'ai pas de téléphone, Et si tu as, en fait, le chat pour essayer de garder quand même un live interactif avec les gens, ça te sort du truc et tu seras peut-être moins pointu, moins focus sur l'invité, tu vois.
Je suis d'accord, il faut maintenir ton attention. Après, on peut aussi se débrouiller pour avoir quelqu'un en régie, par exemple, qui nous fait remonter les trucs importants.
Ouais,
tu vois.
Mais là, du coup, ça fait un peu dispositif, tu sais, Léon Zitrone, Guilux, à vous cognac j'ai, on me dit dans l'oreillette que, tu vois. Et en fait, ça enlève l'intérêt de Twitch qui est très organique, tu vois. Le fait d'avoir une personne au chat, ça fait vraiment, tu sais, la meuf dans la régie téléphonique dans les émissions de TF1, tu vois. Et
moi, je me dis, j'y vois du pour et du contre. J'y vois honnêtement plus de contre que de pour. Le pour, c'est de proposer un contenu de ce type. Et je pense pas qu'il y en a sur Twitch, en fait, tout simplement.
Des talks, il y en a.
Des
après,
talks, un talk musical un peu pointu.
Un talk musical, ouais. Mais le truc, c'est est-ce qu'on parviendrait à garder...
c'est le problème, parce que... Enfin, je serais content en fait de pouvoir toucher un nouveau public aussi, tu vois. Ouais. Et en plus, je pense aussi que d'un point de vue même juste traitement médiatique, etc. Tu vois, de gens qui parlent d'émissions, disant ah t'as vu il y a ce truc, etc. Je pense que Twitch est une plateforme qui peut nous amener ça plus que YouTube ou le podcast.
Oui, bien sûr.
Tu vois, un peu se dire ah putain mais t'as vu en live toutes les deux semaines il y a ça, etc. Sur Twitch c'est trop bien. Ça se fait un peu plus que j'ai vu une super émission, j'ai écouté un podcast, tu vois. Enfin, ça touche pas le même public, il y a pas la même hype entre guillemets autour de ces plateformes. Tu vois.
Ouais, bien sûr.
Donc ça, je pense, ça peut bénéficier à l'émission, dans le but évidemment juste de la faire découvrir au plus de monde possible. Et je pense que quand tu fais une émission, c'est le but aussi, hein, c'est de dire bah vas-y, j'essaie de faire un truc intéressant. Je trouve qu'on y apprend plein de choses.
Je fais des émissions pour que personne ne regarde.
Et j'ai envie que le plus de monde possible la regarde pour apprendre des trucs avec nous, tu vois, parce que
bien sûr.
C'est passionnant.
Non, et puis en plus en fait, c'est ça, c'est sur la façon dont on déroule le truc, c'est complètement compatible.
Oui, ça c'est sûr.
Donc voilà. Après voilà, moi la question que j'ai, c'est Est-ce qu'on sera aussi focus? Est-ce qu'il faut changer le dispositif effectivement pour mettre une troisième personne en backup, tu vois?
Bah, je sais pas. Il y a deux gros défauts aussi si on le fait un jour en live sur Twitch. Et donnez-nous d'ailleurs votre avis. Est-ce que vous souhaitez, mettez dans les commentaires, que ce soit sur les plateformes de podcast ou sur YouTube, ou envoyez-nous un DM sur les réseaux, des trucs comme ça. Dites-nous, est-ce que vous pensez que c'est important de le faire sur Twitch cette émission ou pas? Si ça vous ferait plaisir en tout cas. Mais il y a deux trucs quand même qui seraient compliqués.
Ouais.
Et qui, c'est surtout ça qui me fait pencher sur le pour le moment on le fait pas. C'est, à part si la demande populaire est énorme, Daz, là, tu vois, on s'adaptera.
Bien sûr.
Mais c'est un, il faudrait qu'il y ait une horaire fixe. Un horaire fixe. Toujours à la même date, enfin le même jour, même heure. Or, t'as bien vu comme c'est compliqué de caler les invités. Et parfois, on s'adapte en disant « Ah, tu peux pas ce jour-là ? Ok, bon, on le fait le lendemain. » Puis j'appelle la bouclette pour dire « Est-ce que vous êtes dispo ?» c'est un bordel, mais au moins, ça nous permet d'avoir un tout petit peu, tu vois, de marge de manœuvre, de flexibilité.
Franchement,
pour avoir des gens.
Un jour près, ça change rien.
Mais si, parce
un
que...
Un jour près, ça change
non,
rien.
Non, mais en fait, si tu le fais sur Twitch, l'idée, c'est d'avoir tous les mercredis à 19h, tu vois.
Bah ouais, mais tu peux dire exceptionnellement, la semaine prochaine sera jeudi. Franchement, c'est
tu penses pas que le rendez-vous, c'est vachement important?
Alors, le rendez-vous, c'est important, mais il y a quand même un seuil de tolérance. Il y a une fourchette.
Ouais.
En vrai, oui, si tu dis tous les mercredis à 19h et qu'en fait, tu le fais le premier mercredi à 19h et puis... le mercredi d'après t'es pas là et celui d'après c'est le mardi et celui d'après t'es pas là, bah oui, là forcément. Par contre, si tu le fais toutes les semaines ou toutes les deux semaines et que tu t'y tiens, en vrai, si au lieu du mercredi c'est un mardi ou un jeudi, ça va.
Ouais.
En vrai, sur Twitch, ça va, c'est y a quand même une tolérance pour ça, on n'est pas justement à la télévision, tu vois.
Donc, mais ça reste quand même pour moi un truc, tu vois, enfin j'ai peur en fait de pas pouvoir caler autant d'invités que je le souhaiterais, et, ou certains de pas pouvoir les recevoir parce qu'ils seront jamais dispo précisément au moment où on veut live sur Twitch, tu vois.
Ouais.
D'une part. Et l'autre truc, ultra compliqué, c'est,
Bah après, il y a des artistes et des gens qu'on invite aussi qui sont pas spécialement à l'aise avec l'exercice du live et qui sont plutôt rassurés de se dire, si je suis pas d'accord avec ça, on pourra couper, machin, tu vois.
Et là, ça, c'est le deuxième élément, tu as raison, qui pour moi est un frein, c'est déjà, il y aurait un moment où on doit démarrer l'émission précis. C'est-à-dire que la personne, elle a un peu de retard. Genre, on a un quart d'heure avant qu'on puisse lancer vraiment le live, parce qu'on a promis que le live serait à telle heure. On a juste un quart d'heure pour discuter un peu avec elle, etc.
Ouais.
Et ben, elle va perdre forcément en qualité l'émission. Parce qu'on n'aura pas pris notre petite heure habituelle, avant pour apprendre à se connaître et que ça se passe bien derrière.
Oui, c'est vrai aussi.
Ça, c'est déjà, c'est sûr. Après, tu pourrais me dire, Twitch, on peut accepter d'avoir une demi-heure de retard dans le lancement sur Twitch. Mais tout ça cumulé, ça fait beaucoup quand même, non?
Oui. Mais tu vois, enfin, tout ça pour moi, c'est un peu des trucs exogènes. C'est-à-dire que c'est du contexte, c'est l'environnement autour du contenu. Moi, vraiment, en tant que streamer, c'est surtout sur la partie émission pure, contenu pur, où je me dis, est-ce qu'on serait capable d'être aussi focus? Tu vois, moi, c'est ça qui m'inquiète plus.
Moi, je pense.
Parce que Twitch, un jour, le lendemain, la veille, c'est pas grave. Heure fixe, 30 minutes après, 45 minutes après, c'est pas grave. En fait, les gens, ils sont flex. Justement, parce que ils sont pas allés dans une salle de concert. Ils sont pas allés dans une salle de conférence où, en fait, effectivement, on les fait poireauter. Ça fait une heure et demie qu'ils nous attendent, tu vois.
Ouais.
Ils sont chez eux, ils font autre chose, ils jouent, machin, ils cuisinent, ils mangent, ils discutent. Le truc, ils se lancent quand ils se lancent, ils sont là. Ah, vas-y, c'est bon, c'est parti, tu vois.
Ouais.
En vrai, à part si vraiment t'as 3 heures de retard et là et ça fait 3 heures surtout que t'as un waiting screen, les gens ils vont devenir fous, tu vois. Mais en vrai, tu démarres à 21h30 au lieu de 20h15, ça va, c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que après tu proposes une émission de qualité, tu vois. Qualité et pas
AER.
Précise quand même.
Bon, donc
mais voilà, donc c'est un sujet, voilà, c'est dans l'air du temps et en même temps c'est le sens du progrès.
Moi j'avoue que pour l'instant je pars sur l'idée, on a une recette qui fonctionne bien, j'en suis fier.
Ouais.
Essayons de la garder la qualité
et de l'améliorer à chaque fois,
et de l'améliorer, d'avoir encore d'autres invités, d'autres gens. Tu vois, j'aimerais qu'on chope des gens un peu plus fat aussi, par exemple, tu vois.
Ouais. Ah, ça serait
des artistes vraiment plus gros.
Ouais.
Et pour justement créer ce décalage, non pas, j'adore recevoir des gens avec une plus petite résonance, tu vois. En plus, souvent, c'est des gens qui ont plein de choses à dire.
Bah ouais, mais c'est ça aussi.
Parfois même plus que les gros.
En fait, le truc, c'est ça. C'est que bah, du coup, tu risques de perdre en authenticité, en naturel.
Non, mais
parce
justement.
Parce qu'ils auront quelque chose à perdre.
Mais justement, tu vois, l'idée, ce serait de garder ce truc un peu pointu avec plein de professionnels de l'ombre et tout le temps.
Ouais.
Des artistes plus petits aussi.
Et de temps en temps,
un gros, et l'amener sur notre terrain, tu vois, du truc un peu, on prend le temps. c'est un peu plus pointu, un peu plus profond. On parle de tous les aspects de la musique et tout. Et j'aimerais trop en fait voir des gens dans ce cadre-là, des gros artistes dans ce cadre-là. Après, ça se trouve peut-être que j'imagine, enfin ça se trouve il y a des émissions qui sont peut-être un peu comme ça déjà, je sais pas, mais je pense qu'on a notre patte.
Ouais.
En vrai,
tu vois. D'accord.
Ouais, je suis d'accord. Et que j'aimerais bien les voir dans ce contexte-là. Bon, en vrai, je fais. Il y a des gens un peu importants, enfin importants. On est en contact avec des gens un peu fat.
Ouais.
Le problème, c'est que tout de suite, il y a le management qui se met là-dedans. Ça devient compliqué. Il y a des intermédiaires et tout, c'est compliqué.
Eh oui.
C'est un peu, voilà. Ça ralentit en fait les choses, mais l'idée, c'est que ça se fasse. On commence même en vrai à être contacté par. Il y a des labels qui nous écrivent.
Ça,
en nous disant, on aime bien et tout. Peut-être qu'on peut faire des choses. Pas en mode faire de la promotion quoi que ce soit, mais juste nous en disant, on est très clair à la base, c'est dire bah nous on recherche des gens intéressants. Si vous travaillez avec des artistes intéressants, on les reçoit quand vous voulez.
Sans problème, bien
évidemment.
Bien,
mais enfin, évidemment, on donne notre aval, on dit oui ça nous intéresse ou ça nous intéresse pas.
Ouais.
Mais en tout cas, c'est nous donner accès à une forme de catalogue entre guillemets de gens qui potentiellement peuvent être intéressants. Et nous ensuite, en tout cas, c'est ce que j'essaye de créer comme type de lien avec les attachés de presse, des choses comme ça. C'est pas se faire imposer des choses, mais juste dire bon voilà, on a tel contexte et tout. Lui, on le trouve intéressant, il y a peut-être moyen de faire un truc. Ça marche pas toujours, mais parfois ça marche.
Non, mais c'est bien aussi d'être rentré comme ça dans les Rolodex des maisons de disques en mode tiens, il y a ce média-là qui existe, c'est très cool.
Ça fait plaisir, ça c'est certain. Et ça, on reste une petite communauté, hein, mais je crois que on a beaucoup de professionnels qui nous écoutent, par exemple. Et ça, c'est un truc dont je suis assez fier, effectivement.
La validation par les pairs.
Ouais. C'est limite ce qui importe le plus, parce que j'ai bien conscience qu'avec ce qu'on fait comme contenu, on va pas devenir squeezy demain, tu vois. On va pas se voiler la face.
Mais tu vois. Pourquoi pas, on pourrait. Il y a de la place pour des squeezy sérieux, hein.
Ouais, pas avec autant d'abonnés, je crois, honnêtement. En même temps, c'est pas la vie dont je rêve non plus, hein.
Ouais.
Mais
non, mais voilà, en fait, c'est ça le truc aussi, c'est qu'est-ce que le succès? Moi, je vraiment, dans tout ce que je fais, tout ce que j'ai toujours fait, moi, en fait, si je réussis à en vivre normalement, ça me va.
C'est déjà bien, hein.
J'ai pas du tout la volonté d'être arrêté
dans la rue et d'avoir des hordes de fans. Je sais combien c'est ce tatou. Le nom de mes projets, ma faire sur record, enfin, je m'en fous. Ouais, par contre, juste être capable de vivre plus permanent de ça et continuer à kiffer, ça suffit. Hein. Et ça, pour moi, c'est un succès, tu vois.
Je suis d'accord avec toi. Et puis, la reconnaissance aussi des gens que tu estimes compétents, etc., et que peu te fassent un retour en disant que c'est bien ce que tu fais. Moi, j'ai avide aussi de toujours retour. Ça me paraît important. D'autant plus quand tu parles de musique ou
n'importe quel autre sujet et que des gens qui la pratiquent ou dont c'est le métier te disent tu dis pas que des conneries mon gars, ça me paraît pertinent tout ça.
Ouais, tu dis
ok, je suis sur la bonne voie.
Ouais,
tu vois.
C'est la validation, ça fait toujours plaisir. C'est sûr.
Parce qu'on s'interroge toujours, tu vois.
Toi beaucoup, hein.
Ouais, mais
moi,
c'est bien de s'interroger. Non,
moi, beaucoup. Ah ouais, moi je m'en blague, oui. Ouais, franchement, moi je trace, non mais vraiment, je trace ma route, tu vois. Comme disait Booba, si tu kiffes pas Renoir.
Je suis pas dans cet esprit-là.
Ah, moi, ben en fait, tu sais que quand tu donnes des choses à voir, fatalement, il y a des gens qui vont juste décider de pas aimer.
Ça, c'est vrai. Non, mais pardon, tu vois, éviter de dire des conneries. Dire des trucs
fous. Bien sûr. Ouais.
Essayer de. Ouais.
Asséner des vérités cosmiques. Mais d'un autre côté,
je me sentirais con, tu vois.
Mais non, mais si tu trempes le truc.
Ça m'arrive régulièrement, de temps en temps, forcément.
Tu trempes ça à l'encre du vécu. C'est peut-être pas une vérité absolue, mais c'est ta vérité à toi.
Non, ça c'est la porte ouverte à beaucoup de conneries aussi. Hein.
Donald Trump, mon gars.
Bah ouais.
Non, mais généralement, à quel moment est-ce qu'on aurait été en position, puisqu'on laisse quand même l'invité dérouler.
Oui.
Donc à quel moment on aurait été en position
non,
de
mais...
raconter des non-sens ou des contre-vérités?
Pas des non-sens, mais par exemple, tu vois, quand. Je sais pas, c'est un truc que j'aime bien faire, tu sais, les amener sur le côté un peu business et tout.
Mm-hmm.
Bah, si j'avais pas, parce que j'ai bossé en parallèle sur des vidéos hors du podcast, et puis après dans le podcast on a reçu des gens, etc. Si j'avais pas une idée à peu près claire, pas parfaite, je suis pas un professionnel de l'industrie musicale, mais j'ai une petite idée des rôles de chacun, des grandes étapes, etc. Bah, ça me permet de bien interroger la personne, puis quand elle me répond, je capte ce qu'elle me dit, puis je peux l'amener sur autre chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas en fait tant de dire des conneries, mais c'est ne pas être en maîtrise.
C'est ne pas avoir une vue d'ensemble complète.
Assez de maîtrise pour pouvoir amener les gens sur des gens intéressants, enfin, tu vois, sur des trucs intéressants aussi.
Ouais, c'est vrai.
Ça fait chier, tu vois.
Ouais.
Mieux vaut savoir un peu de quoi tu parles et l'avoir bossé un petit peu.
Oui.
On se repose beaucoup sur nos invités et on n'est pas des experts, on est plus, tu vois, des mecs un peu généralistes, entre guillemets.
Ouais, justement.
Et qui essayent de, tu vois.
Je pense que si on était des experts,
ouais.
ça serait chiant.
C'est vrai aussi, probablement.
C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a un expert, il y a une experte, c'est l'invité. Et après, nous, en fait, on est un peu monsieur loyal, tu vois. Et, le but, c'est de faire justement le pont entre ces gens qui ont une expertise et un vécu incroyable et l'auditoire, tu vois.
Tout à fait.
En rajoutant notre propre vécu dedans. Mais franchement, moi, là-dessus, j'ai pas l'impression d'avoir raconté vraiment des grosses conneries.
Non, mais je pense qu'on n'a jamais dit de dinguerie ou quoi que ce soit. Hein. Peut-être que parfois, on est moins pertinent que d'autres.
Oui, alors voilà. Non, après, voilà. Le truc, c'est ça. C'est si tu essayes de faire un truc pour que tu n'aies pas dans les commentaires de la vidéo Jean-Michel Expertise qui vient t'expliquer que... Alors là, les gars, je suis désolé.
Il a capté, Salman.
Ouais, je suis désolé, mais là, Salman, il parle de ça en parlant des 30 kHz. Je suis désolé, ça n'a rien à voir. C'est du 220 kHz. Ça n'a aucun rapport, tu vois. Non, ok. Mais en fait, moi, ces gens-là... Et c'est vrai qu'il y a des mecs qui postent des commentaires, parce que c'est souvent des hommes. Hein. Notez bien le truc. Ils postent des commentaires, mais c'est des pavés.
Ouais.
C'est des pavés de ouf et t'as envie de lui dire bah frère, puisque t'as autant de trucs à dire, fais ta propre émission et arrête de nous casser les couilles. Tu
Après,
vois.
Tu sais, je suis un peu plus tolérant sur nous, sur notre prestation, dans un cadre comme celui du podcast, puisque l'expert entre guillemets avant tout c'est notre invité et que nous on essaye de l'amener sur des sujets intéressants, mais de manière un peu naïve aussi même parfois. On peut
volontairement, bien sûr.
Ah oui, comment ça se passe
ouais.
Et vous êtes vraiment payé comme les autres profs. Et tout. Ouais. Je pense, voilà, c'est des questions un peu cons. Mais en vrai, c'est juste pour comprendre.
Mais c'est des questions que les gens se posent aussi.
Je pense.
Tu vois.
Et que je maîtrise pas toujours d'ailleurs, juste je les pose de manière naïve, mais que j'ai envie de savoir aussi, tu vois.
Tu auras forcément des viewers qui sur le sujet
maîtrise mieux que moi.
Maîtriseront, mais vraiment, tu sais, un point, genre Laurent Deville, il parle du thérémine. Alors attendez, parce que moi j'ai fait un doctorat en thérémine, tu vois. T'auras forcément ce gars-là ou cette meuf-là, mais souvent c'est des hommes qui viennent essayer de rajouter leur truc en mode vous avez pas été complètement exhaustif, vous avez parlé de 1959, c'était plutôt 1960, tu vois.
Pardon Robert.
Et oui, bah, tu vois.
Je vais m'autoflageler.
Et en fait, si tu penses à ce genre de commentaires-là, en fait, ça va te paralyser. Tu vas pas pouvoir faire
alors,
les trucs.
Tu sais quoi? Dans le podcast, je me rappelle maintenant ce que je voulais dire, c'est pas très grave parce qu'en fait, c'est une discussion.
Ouais.
Et qu'on réagit à chaud et qu'on peut pas toujours être nickel.
C'est quand toi, tu présentes un sujet solo.
Alors ça, par contre, est ce que j'ai fait pendant 50 épisodes sur Culture Son, un autre format, tu vois, que j'ai arrêté là.
Là, c'est un peu plus chaud.
Alors par contre, là, je faisais l'expert. Je bossais le sujet avant, etc. Beaucoup. J'écrivais énormément. Je tout double, triple, quadruple check avec plein de sources différentes, etc. Et là, je m'assurais de pas dire de conneries. Parce que là, en gros, je me mets dans la position du professeur d'une certaine manière en disant voilà comment ça se passe, voilà ce qui existe, etc. Et tout repose sur moi.
Oui, mais en fait, c'est de l'interprétation aussi. C'est-à-dire que tu peux être, tu peux par exemple omettre certains faits.
Non, mais c'est oui. Après, il y a des positions
qui servent la narration.
Ouais, il y a des
sans
angles.
Sans que tu racontes des contre-vérités, sans ça, que tu dises l'inverse de ce qui s'est réellement passé, tu vois.
Et en même temps.
Mais tu peux pas être exhaustif.
Exhaustif, non, mais après, il y a des choix éditoriaux. Et quand tu mets des choses de côté, on peut te dire aussi, tu peux pas juste te reposer en disant que t'avais pas le temps. Tu peux pas juste dire j'avais pas le temps. C'est aussi, t'as fait le choix.
Bah non. C'est que c'est une volonté éditoriale.
Exactement. Bah ouais. Et donc, ça, quand même, il faut le faire en pleine conscience des enjeux et parfois aussi bien
mais en fait,
faire.
Mais le truc, c'est que c'est pas, pour moi, c'est pas à toi de faire ça, c'est au public de comprendre que tu l'as fait. Tu vois, c'est comme, là, il y a un truc, encore une fois, sur Twitter qui était passé, où Albert Dupontel présente son film, et il y a un journaliste critique de cinéma qui dit, oui, dans votre film, quand même, à certains moments, on se rend compte que la réalisation ne sert pas forcément le propos. Ouais. Tu vois, genre, il y a des trucs inutiles. Et le mec, il a fait, vous avez découvert qu'on mettait en scène un film, en fait. Tu vois. C'est-à-dire que quand t'es tout le temps dans la recherche de la pureté, de vraiment de l'essence du sujet, tu oublies que en fait ta vidéo de 5 minutes pour couvrir un sujet que certains font des doctorats et ne maîtrisent même pas après 10 ans de recherche, à un moment donné va falloir faire des choix éditoriaux, tu vois, parce que sinon on va faire un podcast de 18 ans.
Donc,
ça sert à rien, tu vois. Et en fait, c'est ça aussi qu'il faut que les gens comprennent, c'est que quand ils voient Salman qui parle d'un sujet sur YouTube, c'est pas la vérité absolue, c'est la vérité selon Salman par rapport à son vécu, à son éducation et à ses recherches, tu vois.
Ouais, après moi j'essaye justement de...
Tu pourras jamais être l'objectivité pure.
L'objectivité pure, non, mais de donner les clés essentielles qui me semblent de base pour pouvoir se faire un avis ensuite personnel, propre à chacun. Mais j'essaie de leur offrir ces clés-là, par contre.
Ouais.
Enfin, j'ai essayé.
Mais ce que je veux dire, c'est que t'auras toujours un gatekeeper qui dira, là, tu vois, t'as donné les 18 clés, un manque de bol, dans ce milieu-là, il y en a 19.
Mais tu sais quoi? l'exigence quand même que j'avais vis-à-vis de moi-même, même si j'ai conscience de effectivement tu peux pas.
En fait, ça te paralyse.
Mais pas seulement. Non, franchement, c'est peut-être que parfois ça m'a rendu le travail difficile. C'est peut-être pour ça que j'ai arrêté aussi. Parce que c'est, c'est quand ça va être lourd. Comme
c'est
travail.
Chiant de devoir s'assurer que personne va pouvoir t'attraper par le t-shirt.
Ouais, mais en même temps, c'est une exigence qui te permet de produire parfois du travail de qualité, en te remettant sans cesse en question, en disant attention à ça.
Se remettre en question, 100%. Ouais. Essayer de contenter des gens qui, de base, de toute façon, vont chercher la petite bête parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent.
C'est pas contenter les gens, c'est juste me dire, si quelqu'un dont c'est le métier, par exemple, ce sujet-là que je traite dans la vidéo, il faut pas que je lui laisse l'opportunité de me dire, mec, moi je suis dans le métier, tu racontes n'importe quoi.
Ouais,
je peux jamais laisser cette opportunité.
Bien sûr, c'est l'évidence.
Ou même pas forcément n'importe quoi, mais sur un sujet majeur, quand même, ou important, t'as été un peu trop limite, tu vois, pas assez juste.
D'un autre côté, t'imagines la pression que tu te mets, c'est-à-dire que sur chaque sujet que t'abordes, il faut que tu sois au niveau des experts ne sont que là-dessus.
Point. Mais oui.
Tu vois, enfin,
en fait, c'est un truc vers lequel j'essayais de tendre.
Alors c'est bien.
Voilà. Après, sans avoir conscience, c'est pas possible, tu vois.
Mais les scoops, t'y arriveras jamais. Ça, voilà. Et tout le temps, et je le redis, on parle plus souvent des trains qui arrivent en retard que des trains qui arrivent à l'heure. Donc en fait, tu vas plus souvent buter sur un commentaire qui est un peu négatif que sur tous les gens qui ont kiffé le contenu et qui n'ont même pas laissé de commentaire.
C'est vrai.
Tu vois. Et en fait, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'accepte les accolades, donc j'accepte les critiques. Par contre, je sais pertinemment que sur certains sujets, tu vas avoir des gars qui vont juste être là pour pinailler parce que ça leur fait plaisir aussi de trouver quelqu'un qui digue le sujet sur lequel moi je suis depuis ultra longtemps. Ah, c'est trop bien, tu vois. Et en fait, bah du coup, ils sont peut-être un peu trop dans l'échange et te font des pavés comme as. Ouais. Et t'es là, tu fais ouais, frère. En fait, c'est un passage de 5 minutes sur une vidéo de 2h30, ça va aller, tu vois. Ouais. Franchement, donc relax, quoi.
Ouais, de toute façon, franchement, on se confronte moins à ça dans le podcast.
Oui.
Clairement. Après, on donne la parole justement à des experts, à des professionnels, dont Florian Lecerf, par exemple.
Florian Lecerf, incroyable émission.
31e épisode.
Ouais, bien sûr. Florian Lecerf de chez.
135 médias.
J'en ai marre des gens qui ont que des numéros. Donc, 135 médias, voilà, qui bossaient avec Bouscapé et compagnie.
Ouais.
Très intéressant d'avoir
sur le business
de vue-là.
Du rap, l'industrie musicale, spécifique au rap. Ouais.
Super intéressant parce que le parcours du mec. Genre, le gars, littéralement, il a ouvert une porte, on lui a fait, hey, ici, c'est le rap, il a fait, c'est cool. Voilà. Ouais. Et en fait, il est devenu, il s'est mis à bosser là-dedans. Moi, je suis vraiment admiratif, justement, des gens comme, et tu vois, un mec comme Florian, je pense que lui, se pose aucune question. Il dit juste, ça me plaît, ça me dit, on y va. Tu vois, et nous, on va se poser des questions. Moi, j'arrive sur le même truc, je vais dire, ça me plaît bien. J'irai bien là-dedans. Mais est-ce que, je suis légitime. Est-ce que j'ai assez de, tu vois?
Après, tu te l'as construit, ta légitimité.
Ouais, non, mais je veux dire, attends, ce gars-là vit du rap.
Oui.
Moi, j'en écoute depuis 30 ans, j'en vis pas, tu vois. Lui, il a découvert le rap, il avait 22 piges. Trois ans après, il est à la tête d'une boîte de prod, tu vois. Et tu dis, putain. Et en fait, j'admire ça. Les gars qui tombent amoureux d'un sujet et qui se disent, j'ai envie d'en vivre. Quelle que soit ma légitimité, mon rapport au truc, effectivement, peut-être que lui, au moment où il lance son truc, tu lui dis, mais t'as écouté Live at the Barbecue, tu vois, est-ce que tu connais Marley Marl? En fait, il s'en bat les couilles.
Après, il a fait quand même son chemin avant, il est passé par Dean Records, le label de Medine.
Oui, mais tu vois, il est rentré là-dedans à 19
piges. Étape par étape.
Et comment il est rentré là-dedans? Est-ce que c'est un mec qui se bute au rap? Il a juste dit, j'aime bien ce qu'ils font. Tiens, je vais bosser avec eux. Ouais. Eh ben, franchement, cette démarche-là, je la trouve trop bien. Ouais. Et c'est un truc vraiment, c'est-à-dire, aller sans complexe. Tu vois, sur un truc, en se disant, j'y connais rien, machin, etc., mais ça me plaît bien, et j'ai envie de m'y intéresser, j'y vais. Franchement, je pense que c'est un truc, on devrait tous être capables de faire ça. Après, ce qui est intéressant avec lui, c'est que du coup, il a aussi ce regard très cynique, puisqu'il est dans l'industrie, et il sait comment ça marche.
Ouais, ouais.
Et moi, je me rappelle qu'effectivement, on avait parlé de la notion de critique dans le rap, en partant du principe que normalement ça devrait être les médias spé qui devraient être les plus critiques sur leur culture, hein, et que lui il disait non, parce que si jamais on parle mal d'un album, soit l'artiste viendra plus jamais, soit il va venir nous péter la gueule, donc on préfère éviter.
Alors, je précise quand même, c'est que c'était sa vision lui avec 135 médias, mais qu'il disait bien on n'est pas journaliste, mais qu'en parallèle il peut y avoir dans ces médias des journalistes, une
rédaction, etc. On n'est pas journaliste, moi, on n'est pas journaliste, alors que l'essentiel de ton média, c'est de faire des chroniques.
Ouais.
Frère, à un moment donné.
Non, mais chez Bouscapé, par exemple, je sais qu'ils ont mis à la tête récemment de la rédaction quelqu'un qui vient du Bondi Blog, si je dis pas de bêtises.
Ouais.
Jalal quelque chose, je sais plus. Et et dans l'optique d'amener une démarche plus journalistique à la rédaction, et notamment sur des sujets de société, des choses comme ça. Et d'ailleurs, et c'est vrai, depuis son arrivée, on voit qu'il traite beaucoup plus de sujets de société, pas forcément en lien avec le rap, avec la culture urbaine, les quartiers, de manière générale, tu vois.
Bah, après, quand ton média s'est monté...
Il peut y avoir cette volonté aussi, tu vois.
Bah ouais, mais je veux dire, quand le média il s'est monté de base pour servir de relais promotionnel aux maisons de disques...
Je sais pas si c'était leur ambition, mais trop souvent,
bah, oui,
trop souvent les médias spé deviennent ça.
Il y a du copinage, et, mais tous les médias spé, je veux dire, on parle du rap, mais tu parles de... Le jour où les gens vont se poser la question de comment fonctionne la presse automobile en France, mais il y a des mecs qui vont tomber des nues, hein, parce que
on est littéralement dans un pur relais promotionnel chez les constructeurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Et toute la presse fonctionne comme ça. The Web Video, la musique.
On peut renvoyer à l'épisode 44 du podcast d'Az avec Brice Miclet et Simon Clair. On avait parlé de journalisme musical. Et en l'occurrence, c'est intéressant parce que. Il y avait de la presse. D'ailleurs, depuis Simon, malheureusement, bah, il a perdu son job. Parce que Trax a fermé, entre-temps, Trax Magazine. Bon, il le savait déjà à l'époque, il ne pouvait pas communiquer, on ne le savait pas.
Mais, il aurait pu nous le dire, quand même.
Ouais, je sais pas, je pense que c'est délicat, genre de choses. Parce qu'il y a ça, mais aussi, il y a des salariés, tu vois, dans le tas qui vont plus avoir de taf. Donc,
mais quand même, il aurait pu nous le dire.
Il va faire d'autres choses. Mais il a fait d'ailleurs, il a vite rebondi, en vrai, il le devait le faire en parallèle. Hein. Mais parce qu'il vient de sortir un documentaire sur Arte, sur l'autotune. Absolument passionnant. Je vois, je vois pas mal tourner sur Twitter, etc.
J'ai vu tourner aussi.
Et c'est Simon qui l'a coproduit, co-réalisé. Je sais plus quel est comment, le nom de son acolyte, mais je suis allé le voir à l'avant-première. Il m'avait invité, très stylé. Donc allez voir, c'est en, je crois, 6 épisodes de genre 5 minutes, un peu plus. Enfin, ça fait au total quasiment une heure. Et c'est très très bien foutu sur l'autotune. C'est surtout des témoignages, en fait. C'est là où je trouve le docu bon. J'ai pas appris 3 milliards de trucs sur ce que c'est que l'autotune. Par contre, j'ai vu plein d'artistes qui parlent de leur rapport à l'autotune, parfois un peu plus critique, parfois dithyrambique, etc. Et là, c'est vachement intéressant.
Non, très très cool, ouais.
Ouais.
Donc, oui, effectivement, on avait parlé du journalisme musical et de la difficulté de rester indépendant et.
Absolument. Et aussi. J'avais été marqué, notamment avec l'expérience de Brice, Simon disait la même chose, que bah, par exemple, dans l'IB, en musique, il y a des trucs pointus, pertinents.
Ouais.
Et qu'en fait, il n'y a peut-être pas que la presse P, tu vois. Et on sait que les codes du rap, les institutions ne les maîtrisaient pas pendant longtemps, y compris les grands journaux ne les maîtrisaient pas pendant longtemps, ils n'avaient pas les personnes pour en parler.
Il y avait une défiance. Mais en fait, c'est ça
ça change petit à petit.
C'est que se dire que l'essentiel des choses qui touchent à notre culture vont être mieux traitées dans la presse généraliste que par les médias de cette culture, bah moi, ça m'emmerde, tu vois. Là, je me dis non.
Dans le rap, c'est rare. Dans le rap, c'est rare.
Bah, la place faite aux femmes, la misogynie, machin, etc. Tu vois. Peut-être que sur Bouscapé, avec le virage qu'ils ont pris, ça va arriver. Mais tu vois, tu vas pas avoir ça chez Yard. Hein.
Ouais, ça va.
Concrètement, ça va. Par contre.
Non, mais t'as plein de petits médias plus underground, spécialisés rap quand même, qui eux peuvent se coltiner.
Oui, mais qui n'ont pas l'audience.
Non, ça c'est vrai.
Tu vois. Et en fait, je suis d'accord avec toi, mais moi j'aimerais voir un média spé qui a pignon sur rue et qui prend ce genre de sujet. Et qui les traite en disant il faut que ça soit traité par nous.
Je sais plus chez qui c'est sorti cet article, mais je me demande si c'est pas chez un gros type Bouscapé. Mais à vérifier honnêtement, c'est un article. Tu sais, après, t'as vu l'affaire Benjamin Mendy, qui est un footballeur qui a été donc accusé d'agression sexuelle, qui finalement.
Les poursuites ont été
abandonnées. Et en fait, derrière, il y a eu des vagues sur Twitter de gens qui se sont réjouis, des hommes principalement, en disant « Ah, vous voyez que les femmes peuvent accuser des gens comme ça, alors qu'ils n'ont jamais rien fait. » La plupart des hommes, d'ailleurs, d'après eux, limite, auraient rien fait, en fait. Et toutes les femmes, par contre, elles cherchent à accuser des hommes d'agression sexuelle. Bref. Et un article, je crois que c'est chez Bouscapé ou un truc comme ça.
Oui, non, c'était...
En mode, vous ne devriez pas vous réjouir de cette situation, tu vois, et genre, clamer ça comme une grande victoire.
Je crois même qu'il disait un truc du style c'est pas parce que les charges ont été abandonnées que le mec est innocent, c'est juste qu'on n'a pas pu le prouver, tu vois. Donc,
ça, je me rappelle plus le contenu exact, mais en gros, c'était juste ramener, et c'est courageux, dire putain, célébrez pas ça comme une victoire, quoi, tu vois.
Mais c'était pas Camino.
Je sais pas.
Tu sais, Ménès, là, les mecs, tu sais, les gars de la
Camino,
qui sont tout le
c'est
temps.
C'est chez Camino, ça
j'ai l'impression. C'était pas un truc de Camino TV,
ça? Je sais pas. Ça me paraît étonnant parce que, en l'occurrence, on peut critiquer, dans les médias rap, les incointances avec les marques, etc. Camino, j'adore la clique, tu vois, etc. Mais dans le genre incointances avec la carte, avec les marques.
Bah, bien sûr.
Bah oui. C'est...
Non, et puis, en fait, plus que les accointances, moi, ce qui peut potentiellement me déranger, c'est vraiment le côté 150% tout le temps. Tu vois.
Et puis surtout, te faire passer le marketing pour de la culture.
Ouais. Ah oui, mais ça,
il participe aussi beaucoup à ça.
C'est la célébration du marketing, c'est la célébration du vide aussi. Et,
tu vois. Alors après, en parallèle, par exemple, tu vois, il y a Nifa qui fait, qui est une journaliste très cool autour des cultures urbaines et du rap.
Qui tournait avec
qui fait une émission chez Camino.
Nifa, il me semble.
Ah oui?
Ouais, il me semble. Hein. Il me semble que c'était l'entourage 1995, tout ça.
Ah ouais, ok. Ouais, ouais, en tout cas, son émission est très cool chez Camino.
Ouais.
Et elle invite des gens à chaque fois. Et par exemple, là, il y a vraiment de la culture, en l'occurrence, tu vois. Donc, voilà, je ne vais pas tout rejeter chez Camino. Et globalement, j'aime bien l'esprit.
Moi, c'était le côté 100% on jaillait tout le temps, tu vois, où tu fais, les gars, trop.
Ouais, et puis vraiment, ce truc, tu sais, de se faire le prolongement des marques en disant. Ouais. On en parlait d'ailleurs, tu sais, avec Roche, avec Césaire, tu vois, où je disais. Vas-y, les marques maintenant, les Nike, les Lacoste, etc., à la limite, ils viennent en disant, mais nous, on a été importants pour le hip-hop, tu vois. Alors, ou Adidas, dire, non, attends, mon gars, il y a eu des deals, le bon deal au bon moment, vous êtes arrivé après en général, vous avez mis du temps à vraiment complètement l'intégrer dans votre stratégie marketing, parce que c'était pas si classe, ou vous l'avez jamais fait. Ouais. Arrêtez de nous vendre, genre, dans la culture, vous étiez importants. Aujourd'hui, ils le font énormément, et les trucs parfois comme Camino peuvent un peu s'inscrire là-dedans, tu vois, en mode.
Mais en fait.
Nike, tu vois, ça accompagne les grands mouvements culturels depuis longtemps.
Non, mais.
C'est limite un truc un peu comme
est-ce
ça.
Est-ce que ça.
Nike, c'est trop stylé.
C'est pas simplement le révisionnisme habituel. C'est-à-dire que moi, je suis assez vieux, maintenant, pour voir des gens plus jeunes que moi parler de phénomènes sociétaux, culturels que j'ai connus d'une manière que je ne reconnais pas, tu vois. Et je me dis. Si moi, là, la différence, c'est que j'accepte pas ce que je suis en train de lire parce que j'étais là et que ça s'est pas du tout passé comme ça, je me dis, putain, le nombre de fois où ça a dû être fait de la même manière, mais là, je connaissais pas le truc parce que j'étais pas né, je me dis, en fait, tu vois. Donc, je pense qu'il y a toujours le storytelling, c'est ultra important, tu vois. Et je pense vraiment que si tu digues vraiment en mode académique, tu vas te rendre compte qu'il y a plein de trucs que tu...
Le bullshit.
Oui, c'est pas du bullshit, mais c'est en tout cas une version peut-être un petit peu romancée, ou tu vois. Donc, voir Nike expliquer que, limite, ils ont participé à la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Bon,
les gars
Si ça vous fait plaisir, vous me faites une belle vidéo, c'est émouvante et tout, avec des images d'archives, ok, bon, d'accord, tu vois. Mais pourquoi pas. En vrai, ça a toujours été le cas, tu vois. Et comme on dit... Je sais plus qui disait ça, mais l'histoire a été écrite par les vainqueurs.
Ça, c'est vrai.
Donc, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de vérité absolue.
L'histoire n'est pas neutre.
Eh oui.
Il y a eu plein d'autres épisodes d'Az.
Ah là là.
Ça fait mine de rien, ça fait 1h15 qu'on parle déjà du The Bilan.
Moi, je voudrais qu'on évoque le podcast qu'on a fait avec l'émission qu'on a faite avec les chercheurs en algorithmes et
De chez Deezer.
De chez Deezer.
Manu Bouabka, Manu Moussalam et Thomas Bouabka.
Et Thomas, voilà. Manu et Thomas, c'était vraiment très très cool. Ça aussi,
effectivement. Épisode, je vais te le dire tout de suite, épisode 37 d'Az.
Épisode 37.
Effectivement, sur le fonctionnement des algorithmes de Deezer. Très fier de cet épisode parce que, à la fois accessible et en même temps pointu, tu vois vraiment. En plus, il y a plein de fantasmes. Déjà.
Oui.
La consommation de musique, aujourd'hui, on sait que la consommation via le streaming est essentielle. Ouais. Donc, s'intéresser à comment ça fonctionne. Comment vous trouvez... Parce que il y avait le côté de ces algos, genre, on te suggère des choses après ce que t'as écouté. Ouais. Mais il y a aussi juste, tu tapes comment trouver exactement le morceau qui correspond à ta recherche.
Ouais.
Juste le nom, etc. Ça, c'est un truc que j'avais pas anticipé avant de les recevoir. C'était une part importante de leur taf.
Ouais.
C'est juste, t'as un moteur de recherche, il faut qu'on s'assure que quand tu tapes un truc, tu trouves le morceau que t'avais en tête exactement.
Ouais.
Et ça, c'était super.
Y compris avec les fautes de frappe et machin.
Ouais, franchement. Grande galère, en vrai.
Mais c'était une émission super intéressante. Ouais. Et on a pu aussi aborder le truc. C'est un sujet qui est de plus en plus prégnant. Les faux streams. Parce que toute l'industrie pivote au-dessus. Enfin, pivote autour de ces chiffres d'écoute. Et donc, forcément, là, c'est en train de sortir. Tu vois que, il y a des maisons de disques. Elles mettaient 2500, 3500 euros en consulting marketing sur un gars qui, en fait, sa prestation de consultant, c'était juste d'aller faire des fausses écoutes pour péter le million sur YouTube en une semaine, et tu vois.
Tu sais, les fausses écoutes, il y a des sites internet, tu vas, c'est fait en...
Ouais, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça qui est ouf. C'est-à-dire qu'en plus, les maisons de disques, elles sont tellement connes, pour certaines d'entre elles, qu'elles le feraient même pas elles-mêmes parce qu'elles savent pas comment ça marche. Elles vont prendre un gars qui, lui, va sur un de ces sites-là, qu'on pignon sur rue, et font la même chose, tu vois.
Tu sais que j'ai consacré, d'ailleurs, c'est l'avant et l'avant-avant-dernier Culture Son. J'avais fait deux épisodes sur le Fake Stream.
Ouais.
Et il arrive que le label soit dans la boucle lorsqu'il y a de la triche. Mais il arrive parfois que ça soit fait dans son dos aussi, son insu, que ce soit dans l'entourage de l'artiste, voire, il y a même pire.
L'artiste lui-même.
Non, il arrive que des gens aux dépens de l'artiste le font pour lui nuire.
Ah.
Parce que... Parce qu'il y a plein de façons, tu connais, hein, c'est classique, c'est comme le piratage, machin, etc. Ouais. On sait que les gens, les voyous, entre guillemets, ils ont toujours de l'avance, en fait, sur la législation, sur les gens qui essaient de rattraper au niveau technique, machin, etc. Ouais. Et en fait, il y a des méthodes de triche pour avoir des fake streams qui sont plus difficiles à détecter. Et au fur et à mesure, à chaque fois, on trouve une parade et puis il y a une nouvelle technique qui arrive, etc. Mais il y a des techniques qui sont beaucoup plus détectables. Mm-hmm. Et ça peut être intéressant parfois de dire, ah tiens, je vais lui rajouter la balle de stream.
Ouais.
Comme ça, on va le faire passer pour un tricheur. C'est terrible, hein. Alors c'est le Centre National de la Musique qui avait commandité, entre guillemets, enfin qui avait commandé même plutôt, une étude sur le sujet, très précise, très passionnante. Je vous invite à aller la lire ou à regarder les cultures sons sur les fake streams. Et c'était un des éléments qu'ils craignaient. Alors ils n'avaient pas des exemples précis. Mais il disait, on craint, et il y a des. En interrogeant les gens du milieu, etc.
Oui, que ce soit vraiment un move de la concurrence.
Absolument.
Pour discréditer l'artiste.
Incroyable.
Ouais. Mais c'est comme un peu le mec qui fait une sortie raciste et qui dit qu'il s'est fait pirater son compte Twitter. Je trouve que c'est un peu facile.
Moi, j'y crois un peu.
Ouais,
j'y crois
non, mais on m'a piraté. J'ai pas du tout dit ça. J'ai été piraté. Oui. Ça, c'est pareil. Non, mais c'est des fake streams, mais c'est pas nous. C'est beaucoup trop grossier. Oui, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, non, mais en tout cas, c'était intéressant de discuter de ça avec eux. Alors.
Génial épisode.
Ils ont pas pu, à l'antenne, en tout cas, pendant l'émission, nous expliquer. Ça, ils l'ont fait après. Mais nous expliquer comment est-ce qu'ils détectaient les machins, tu sais, quelle routine ils utilisaient pour définir vraiment précisément, parce que si tu le dis, bah forcément tu donnes des indices aux gens qui, tu vois, qui essayent d'être en avance sur la patrouille. Mmh. Mais effectivement, se dire que c'est un sujet qui les occupe, c'est intéressant quand même.
Bien sûr. Autre épisode ultra intéressant, j'en suis très fier. Il y a, je vais le mettre un peu dans le même package que celui donc qu'on a déjà évoqué avec Roda sur le R&B,
le reggaeton
et sur le reggaeton absolument. Ouais. Alors pourquoi ? Parce que dans les deux cas, en particulier sur le R&B français avec Roda, c'est des genres un peu méprisés, tu vois.
Oui.
Et je suis trop content de dire non, vous savez quoi ? On peut faire 2 heures d'émission, on va parler de R&B français de manière entre guillemets un peu intello même.
Ouais.
Académique.
Ouais.
À la cool quand même, hein, mais avec un vrai savoir derrière, des recherches, des machins, etc. Ouais. Et je vais vous montrer que pendant 2 heures on peut en parler. Et si on peut le faire, c'est que c'est riche en fait.
Bah bien sûr.
Au-delà des considérations de chacun sur l'esthétique, est-ce que ça leur plaît, machin, etc. Non, c'est riche en tout cas. Il y a une vraie histoire, il y a des personnes derrière avec des parcours. Ça révèle des choses de nos sociétés aussi sur la place des femmes, des choses comme ça, etc.
L'épisode sur le reggaeton, pour ça, il était.
Et sur le reggaeton, pareil.
Ah ouais, il était même. C'était vraiment déjà un universitaire qui était à l'origine du truc. Hein.
Parce qu'on avait reçu, je rappelle juste, Géos et Victor Santos Rodriguez. Ouais. Alors ils sont même plus encore sur l'écriture, et vraiment c'est eux qui incarnaient à l'image la présentation. Ouais. Géos et Victor, José Tippenauer, Géos.
Ouais. Victor
qui est un vrai universitaire, absolument, qui travaille sur la question des migrations. Et c'est
et un, on a
c'est
commencé
un truc
par
essentiel.
Ça.
Ouais, c'est un truc essentiel dans l'histoire du reggaeton, l'immigration.
Et le fait de commencer par expliquer l'immigration dans la Caraïbe et tout. Déjà tu sais dès le départ, tu fais OK. Ouais. Parce que moi
on a des bons.
Moi, je fais partie de ces gens-là qui méprisaient un peu le reggaeton, alors que c'est une musique qui est écoutée par quasiment tout un continent, tu vois, minimum. Et toi, t'es là, flemme.
Je peux te dire plus qu'un continent. François qui monte ce podcast, il vit à Barcelone. Je peux te dire qu'à Barcelone, il n'y a que du reggaeton.
Oui, mais
je les
considère comme.
Sur un continent.
Ils sont en Amérique du Sud.
Ah, oui.
Ouais. Mais. Non, mais voilà, en fait, tu te dis, t'as toujours cette tendance à dire, OK, si c'est un truc très populaire, c'est que ça doit pas être ouf, tu vois. Et donc, tu le prends de haut, machin, etc. Dès qu'ils sont arrivés et qu'ils ont commencé à parler des flux migratoires, Jamaïque, Haïti, machin, et tout, j'étais là, je fais, OK, en vrai, là, je vais apprendre 1 milliard de trucs. Et à la fin de cette discussion, en fait, tu sors de là. Et c'est pour ça, j'adore faire ce programme, parce qu'en fait, je sors de là, je me suis nourri, tu vois. Je sors vraiment littéralement moins con que quand je suis rentré, quel que soit le truc. Moi, je suis trop content, en fait. Je me dis, je vais apprendre des trucs sur des sujets où de moi-même, j'aurais jamais fait l'effort de m'intéresser plus que ça. Tu vois?
Ce qui est génial en plus, parce que moi, je vis la même chose que toi. Avec peut-être une petite curiosité à la base sur tout l'univers musical, peut-être un peu plus diverse, tu vois, moi, par rapport à toi. Mais quand bien même, c'est aussi parce que je fais ces émissions que. En fait, c'est du savoir que j'accumule, entre guillemets, et qu'après je ressors dans d'autres contextes.
Ouais.
Alors, soit avec des copains, soit à une soirée, soit juste pour d'autres contenus musicaux, parce que en fait, comme j'ai appris ça, ça m'a fait penser à ça et peut-être qu'on peut l'explorer.
Ouais, en fait, ça te permet d'ouvrir les sujets.
Et puis en interview, quand je me retrouve avec quelqu'un, tu vois, qu'on est tous les deux, et puis je me rappelle d'un truc dont on avait parlé dans le podcast, et je peux relancer l'invité l'actuel. Enfin, et en fait, on devient de meilleures personnes.
Tout simplement, oui, mais c'est ça. Et en fait, on se nourrit. Moi, vraiment, je me nourris de ça. Et effectivement, moi, ça me sert aussi à rebondir dans les émissions ultérieures, de dire ah bah oui, bah ça tombe bien. On en parlait la fois d'avant avec un tel et un tel. Du coup, qu'est-ce que tu penses de ce truc-là? Et en vrai, déjà, c'est ce que je kiffe faire, c'est-à-dire donner du contexte, remettre, tu vois, le sujet dont on parle dans son contexte, que ce soit historique, sociétal, etc. Je trouve ça ultra important. C'est ce que moi j'essaie de faire à chaque fois, même quand je parle de tech, là où je parlais d'un truc, le téléphone est sorti aujourd'hui, mais regardez en fait cette marque-là, elle avait déjà commis ce truc-là il y a tant d'années, qui s'inspirait de ce truc-là, et je trouve que c'est ultra cool de faire des choses comme ça, de faire des ponts entre différentes époques. Et moi, quand je peux effectivement faire des ponts entre différents épisodes de l'émission, ben en plus, je trouve que ça contribue, tu vois, à rajouter un peu le lore autour de l'émission. Il y a un univers qui se crée. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'apprécie vraiment faire. Tu vois, avec des petits running gags, des trucs que tu retrouves, en fait, d'une émission à l'autre. Et c'est ce qui permet d'avoir aussi notre identité, notre patte, et d'être reconnaissable, tu vois. Donc ça, c'est quand même toujours cool de s'appuyer, et on peut le faire parce que on a du contenu.
Je pense qu'on en a du contenu. J'espère d'ailleurs, si vous êtes des auditeurs réguliers, si en plus vous écoutez ou regardez cet épisode un peu bilan, c'est que vous êtes attaché à l'émission quand même. Les autres, ils ont zappé depuis longtemps, je pense. Mais on espère que vous avez un peu ce même rapport, enfin qu'il vous apporte autant qu'il nous apporte, quoi. On apprend à apprendre trop de trucs. J'espère que c'est votre cas aussi, et que vous pouvez mobiliser derrière ce savoir, mais aussi juste passer des bons moments avec nous, des moments peut-être plus drôles, découvrir des personnalités, des histoires de vie aussi, tu vois, c'est toujours intéressant. Tu vois, je pense à des épisodes. Attends, j'en avais mis de côté que je trouve intéressant. Celui avec Nemo, par exemple. Nemo, épisode 47. Où en fait, il y a à la fois, donc lui, il est rédacteur en chef, rédacteur de la musique, chef musique
chez Combini.
Chez Combini. On a parlé évidemment de ce sujet-là, parce que c'est intéressant de toujours voir comment, au sein d'un média mainstream, on traite la musique, quelle est sa vision, etc. Et il y avait un autre pan de l'émission que j'ai trouvé extrêmement intéressant et qui permet de comprendre ce qu'il fait chez Combini d'ailleurs, c'est son parcours personnel.
Bah ouais.
Et comment il passe, lui, du rap et des médias underground. Et il termine chez Combini, qui est l'inverse de l'underground, tu vois, et qui est en plus pas un média rap. Et s'ils l'ont pris, c'est aussi pour ça, on l'a bien compris, parce qu'ils avaient besoin de cette légitimité.
Mais c'est marrant parce que ce parcours-là, pour plein de gens du move, ça serait considéré comme un échec. C'est-à-dire, t'étais un mec de l'underground, machin, avec une réputation, machin, etc. Et genre, tu vas te compromettre un média mainstream.
D'une certaine manière, c'est ce qu'il nous disait avec, tu sais, ces poteaux de la BCDR.
Ouais.
C'est-à-dire que donc cette clique de la BCDR où beaucoup ne comprennent pas. Et en vrai, moi, je partage ce que disent les autres de la BCDR. Ils disent, on peut pas en 5 minutes traiter un sujet de la même manière qu'en 15 minutes.
Ça, je suis d'accord avec toi.
Et mais pourtant, il y croit vraiment Nemo.
Ouais, mais peut-être que moi, en fait, le fait que je gravite de plus en plus dans ces sphères un peu, tu sais, d'influence, de créateurs de contenu, stream, machin, etc., je suis revenu sur plein de trucs.
Ouais.
Où moi, j'étais effectivement à une époque plutôt du côté, si c'est touché par le mainstream,
c'est mort,
c'est gâté, tu vois, c'est ça perd de sa substance, ça perd de son truc et tout. Et j'étais vraiment dans une optique de tu ne peux pas être pertinent, être crédible et aller te compromettre. Ouais. Et en vrai, aujourd'hui, en fait, je me rends compte que c'est totalement possible. Alors il y aura toujours ce truc du contenu, c'est-à-dire quand le contenu dicte
ça,
voilà,
ça.
Quand le contenu dicte ce que tu es supposé produire, effectivement, il y a des contraintes.
Parce que regarde, dans une certaine mesure. Alors, c'est un peu particulier, nous, ce qu'on fait. Mais nous, cette émission, fondamentalement, elle est produite, entre guillemets, par Thomann, dans le sens où c'est Thomann qui met les moyens financiers pour qu'on puisse l'enregistrer.
Ouais.
Certains pourraient considérer... C'est une grosse boîte, Thomann. C'est une grosse industrie.
Ah bah oui, clairement.
Et pour, d'ailleurs, les autres magasins de musique, c'est l'ogre. C'est un peu l'équivalent d'Amazon dans son milieu.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Et puis après, sauf qu'après, il y a l'étape supérieure. Puis en réalité, Amazon, pour Thomann, est Amazon. Tu vois, c'est le gros requin, tu vois.
C'est la chaîne alimentaire.
Voilà. Donc, bon, je suis dans le cadre de la musique. Mais des gens d'autres magasins ou des gens qui sont attachés, je sais pas, du magasin local, par exemple, tu vois, qui est dans ta ville, machin, etc. Ils peuvent avoir une mauvaise image de Thomann et d'un truc comme un truc fat, tu vois, gros, avec de l'argent. Ce qui est vrai, fondamentalement.
Ouais.
Moi, par contre, j'ai aucun problème à travailler avec Thomann. Pourquoi ? Parce qu'il nous offre des moyens pour faire du contenu où il y a une liberté totale dans, tu vois, dans le ton. Bah, et on peut faire du truc pointu.
Il n'y a même pas d'intervention éditoriale en vrai.
Non, on discute évidemment avec eux. Mais globalement, on est libre dans cette émission.
Ils n'ont jamais veto un sujet, un artiste.
Et quand il y a des trucs un peu plus touchy, c'est rare. C'est juste, on veut en discuter un peu avant. Tu vois, des trucs comme ça, on veut voir un peu ce que ça donne, etc. Et ensuite, mais jamais on m'a dit non, tu fais pas ça. Tu vois. Bon, si le seul truc qu'on m'a dit, pour être tout à fait transparent, mais ça c'est pas dans le cadre du podcast, quoique c'est un peu dans le podcast aussi, c'est un moment entre culture son, donc mon autre truc, et le podcast, je parlais énormément de streaming. Du modèle économique, de machin, etc. Je parlais beaucoup de streaming, parce que c'est un sujet qui me passionne. Au moment, ils m'ont dit, bon, tu veux pas parler d'autre chose. Mais tu vois, c'est pas pour des raisons économiques ou quoi que ce soit. C'est juste, ils disaient, vas-y, il y a d'autres éléments que de la musique. Et en plus, c'est vrai que c'est des sujets qui amènent un peu plus de critiques sur l'univers musical. Et autant ils sont parfaitement sensibles à l'idée que vas-y librement parler de la musique, passionner les gens, mais être critique aussi c'est pas un problème. Mais si on commence par contre à prendre la musique que avec les aspects tu vois négatifs, au bout d'un moment ils vont me dire bon gars, le but c'était quand même aussi de donner envie aux gens de faire de la musique.
Potentiellement d'acheter après.
Si vous mettez en avant que des trucs horribles autour de la musique, tu vois, je sais pas s'ils suivront.
Mais c'est
pas notre esprit.
En fait, oui, quand tu travailles en partenariat, de toute façon, c'est un partenariat, donc il faut que ça plaise aux deux parties. Moi, je pense qu'on peut justement s'associer avec une grosse boîte, et c'est marrant parce que c'est aussi un sujet qui est sorti sur Twitter récemment, parce que sur un de mes autres projets, on a bossé avec le Crédit Agricole.
C'est pas la même chose déjà. J'aurais plus de mal à bosser avec le Crédit Agricole qu'avec Thomas, non ?
Alors les gens nous disaient ça, mais en fait c'était le Crédit Agricole, pas des produits bancaires, c'était de l'assurance habitation. Donc déjà c'est différent. T'es pas en train d'essayer de dire aux gens acheter des actions.
Ça fait partie du même groupe quand même.
Ça fait partie du même groupe. Mais en fait, moi j'ai dit bah ouais, on l'a fait parce que c'était une proposition d'histoire dans un univers qu'on a défini nous-mêmes. Et il se trouve que le Crédit Agricole chapeautait le truc parce que l'émission s'y prêtait, mais je veux dire, ils nous ont pas, tu vois, en fait, moi, quand je suis rentré sur le plateau, j'ai pas un gars du Crédit Agricole qui est venu me taper sur les épaules. Alors surtout, tu dis pas ça, tu vois.
Tu sais, j'ai envie de dire que ça se pose pas de la même manière pour moi quand tu fais du divertissement. Je sais pas si t'es d'accord avec ça, mais pour moi, Game of Thrones, vous êtes plus quand même dans le cadre du divertissement.
Bien sûr, 100%. Oui, mais alors, c'est ça qui est marrant. C'est que moi, je suis totalement d'accord avec toi.
Attends, mais tu sais ce que je veux dire exactement?
Parce
que je te précise juste, c'est que, je pense que quand tu fais du divertissement, tu dois faire attention avec qui tu te mets. Parce qu'en fait, ton contenu en lui-même, il ne va pas dégager quelque chose de l'ordre même quasi politique, tu vois, ou une vision du monde. Et tout ce qu'on va retenir, c'est à qui tu es associé. L'élément un peu plus palpable, tu vois, politique, c'est avec qui tu t'associes, qui tu valides d'une certaine manière.
Ouais, bien sûr.
Alors que quand tu fais du contenu, comme on le fait par exemple ici, comme je le fais, en dehors, tu montes le son, je crois que j'essaye, en tout cas, si j'arrive toujours, mais essayer de promouvoir aussi une vision un peu du monde, tu vois, et de la musique, un truc ouvert, machin, etc. Et que si demain une marque, une grosse marque, y compris qui fait parfois des trucs que je juge moralement pas ouf, mais elle me laisse la totale liberté de partager ma vision du monde, et d'une vision qui parfois même peut aller à l'encontre de ce qu'ils promeuvent eux-mêmes, je le fais. C'est pas seulement où je peux passer mon message. Mais dans le cas du divertissement, comme je sais que fondamentalement j'aurais pas de message à passer, on va pas se mentir, tu vois.
Bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Au contraire. Ouais. Au contraire. Bah, évidemment. Quand t'es dans un univers fictionnel où tu joues le rôle d'un père de famille qui doit vérifier que la colocation dans laquelle s'installe son fils est bien tenue avec des colocataires pas complètement cinglés. Je te jure que moi je fais passer 12 milliards de messages, en fait. Et qui sont pas spécialement pro annonceurs, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que à partir du moment où je peux jouer ce personnage-là et où en fait j'ai pas eu d'instruction, genre le truc c'était sur les assurances habitation, mais tu vois, MV il jouait l'expert qui vient constater les dégâts et chiffrer. Une bouteille.
Une bouteille.
Et il racontait n'importe quoi. C'est-à-dire que tu sors de ce truc-là, tu te dis pas, cet assureur m'a semblé pertinent. Tu vois ? Non. En fait, c'était totalement foutraque. Tu vois ? On a des murs qui saignent, on a des pigeons morts qui nous tombent dessus.
Oui, mais est-ce que tu penses pas que, justement, c'est le divertissement prend le dessus sur le propos, qu'en fait, il va être perçu par assez peu de gens.
Pour
80% des gens, ce qu'on va retenir, c'est le Crédit Agricole, c'est un peu cool parce qu'ils supportent Game of Thrones.
Ouais, mais c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. Tant que c'est pas des produits bancaires, tant que c'est pas des jeux d'argent, tant que c'est pas recruter des mecs pour qu'ils s'enrôlent dans l'armée et aillent se battre en Ukraine, en vrai. Ouais. Moi, ça me pose pas de problème. Ça aurait été le Crédit Agricole, produit bancaire, tu vois. J'aurais dit, c'est chaud. Produit agricole, assurance habitation, en vrai, c'est cool, on s'en fout.
De toute façon, c'est des sujets franchement ultra compliqués. J'ai pas de définitif chaque fois.
En fait, c'est très mouvant, c'est très fluctuant. Mais tu vois, par exemple, il y a des gens qui m'ont reproché. On a fait aussi un épisode sur une série qui s'appelle Django, qui était une série Far West, un peu western.
Diffusée sur Canal+.
Diffusée sur Canal+, on m'a reproché, du coup, d'être pro-Bolloré.
Ouais.
À quel moment ? Moi, je suis un cow-boy dans un univers cow-boy, tu vois. À quel moment, en fait...
Ouais, mais tu peux être... Tu associes d'une certaine manière, parfois, ton image à des trucs, c'est vrai aussi, tu vois.
C'est la société dans laquelle on vit qui veut ça, tu
vois. Ouais, non, mais en fait, c'est pas...
En fait, le truc, c'est... Moi, à partir du moment où, justement, on est dans un truc de création originale, qui s'appuie sur une création originale, en fait, que derrière, il y a le grand stratégaire, je m'en branle. Tant qu'on me dit pas... Alors, attention, vous avez pas le droit d'utiliser le terme Bolloré pendant toute l'émission parce que c'est veto, machin, etc. En fait, tu t'en fous. Là, moi, c'était une proposition artistique sur un univers artistique. Mmh. C'était pas du tout...
Non, mais ça, je peux l'entendre.
En fait, c'est ça qui est... Il y a à la fois une crispation et un changement permanent sur comment on s'associe avec un annonceur et une marque.
Après, tu sais, j'ai envie de dire, pour les influenceurs d'aujourd'hui,
c'est
pas mal que de temps en temps, on les rappelle à la réalité. Par rapport au sponsoring. Parce qu'il y a eu quand même, tu sais, un, je sais pas si t'es d'accord, mais il y a un switch qui s'est opéré où pendant longtemps, c'était un peu la honte, où on était derrière ton cul à chaque fois lorsque tu bossais avec des marques. Aujourd'hui, notamment sur Twitch, c'est limite l'inverse. C'est les viewers qui disent, oh, mais oui, il va prendre la thune de machin.
Ouais.
Tu vois?
Ben, moi, je trouve que c'est mieux.
Et ben.
Parce qu'avant, quand c'était un peu la honte, tu pourrais croire que du coup, comme c'était la honte, les gens le faisaient pas. Non. Comme c'était la honte, les gens le faisaient, mais ne le disaient pas.
Non mais ça c'est honteux, mais d'ailleurs c'est illégal maintenant.
Bah oui,
c'est
illégal. Voilà. Et donc en fait moi je préfère quand le truc est au vu et au su de tout le monde que quand c'est un truc qui est un peu géré de manière un peu zouloutée, on filoute.
Ouais, mais c'est pas exactement le sujet dont je parlais. Ça je suis d'accord avec toi. Mais
alors après que les gens acceptent de faire tout et n'importe quoi et de promouvoir les trucs impossibles à promouvoir.
Aujourd'hui, il peut y avoir parfois ce côté, je trouve, de dire vas-y on t'aime bien, si c'est pour la thune, fais un peu ce que tu veux, tu vois, avec les marques. Mmh. Il peut y avoir, enfin, petit à petit, on arrive un peu à ce côté-là.
Bah, il y a ce côté.
Décomplexé.
Oui.
Et tu veux aller vivre à Malte? Bah, vas-y, mon gars, t'as bien raison. Enfin, tu vois.
Bien sûr. Bah, après, t'as quand même tes limites à toi, éthiques. Mais le fait que ta communauté, tu leur dises, hé, les gars, je vais faire, j'ai un potentiel sponsor avec William Sorin. Les gens vont faire, bah vas-y frère.
On vit dans une saucisse.
Bah exactement, donc ça tombe bien. Non mais tu vois, je me dis, au moins c'est partagé, ouais. C'est clair. C'est-à-dire c'est... Non,
mais ça t'as raison, la transparence c'est essentiel.
Tu vois, et les gars ils savent très bien. Alors, les gars, vous étonnez pas si sur le stream à un moment donné je vous fais la retape pour le cassoulet, tu vois. Et les gens ils vont se faire, mais ok cool, tu vois, on s'en fout. Si ça permet après à la personne de faire son contenu et d'en vivre tranquillement, bah franchement go for it. Moi je préfère à la limite ce truc-là. Plutôt que des liens un peu chelous avec ta communauté, tu sais, quand c'est les gens qui refusent le sponsoring, mais qui ont genre un Patreon ou des trucs comme ça et qui du coup.
Ça devient de la mendicité au bout d'un moment.
Bah, sont complètement liés. Et... Non, mais j'aime pas trop quand tu fais ça. Ça serait bien que t'arrêtes de faire ce genre de format. Ça me plaît pas, tu vois. Et en fait, c'est ta communauté qui a un lien un peu chelou.
Ouais, mais en même temps, tu vois, je préfère le modèle Mediapart à d'autres dans les médias, tu vois, qui fonctionne avec ses abonnements, des
oui, mais c'est différent. C'est que Mediapart, en fait, c'est pas le lectorat qui vont leur imposer leur ligne éditoriale.
Oui.
Tu vois, tout comme certains influenceurs, c'est même pas la marque. Certains influenceurs qui sont trop gros, en fait, peuvent se faire sponsoriser et dire n'importe quoi.
En tout cas, choisir entre le modèle tu vis grâce aux gens qui consomment ton produit, entre guillemets, ou tu vis grâce à des marques qui cherchent à rayonner via ce que tu produis, je prends le premier. Je préfère que les,
ouais,
que ce soit les viewers, etc., qui me payent directement.
J'ai tellement de cas où en fait ta communauté devient toxique et t'empêche d'avancer que tu vois. Et c'est pour ça que Mediapart c'est différent parce que les gens sont pas fans de Mediapart, tu vois.
Non.
Ils sont pas fans de ce que propose c'est un média.
Moi j'avoue je parle en fait d'un point de vue économique et comme modèle et d'un point de vue éthique comme je l'imagine.
Un modèle quand t'es un média, c'est-à-dire tu n'as pas un visage à regarder dessus, c'est plus facile.
Est-ce qu'en plus le problème en fait c'est quoi le vrai problème que tu pointes du doigt, et ça c'est un truc que je critique souvent. C'est que lorsqu'il va y avoir le modèle souvent effectivement d'indépendant où en fait il y a pas de marque et c'est via les Patreons, les choses comme ça, le soutien de tes viewers, etc. Tu dois entretenir ce lien.
Ben voilà.
Et pour l'entretenir, tu dévoiles de toi, tu montres que t'es sympa, que t'es proche de machin, etc.
C'est les liens parasociaux et c'est.
Et moi, j'ai du mal avec ça, j'avoue. Je trouve qu'au contraire, il faut un peu de distance. Moi, j'ai envie que ce soit le contenu qu'on fait avant tout qui soit mis en avant, que les gens l'adorent. Ça me fait trop plaisir. Qu'ils nous trouvent compétents, ça me fait trop plaisir. Après, on n'est pas potes, tu vois.
Non.
Mais les gens, ils en veulent quand même un petit peu plus. En fait, pour moi, t'es pas obligé d'être pote. Si, tu vois, moi, je suis habitué. Je descends en bas chercher pour un kebab au poulailler, tu vois. Les gens, en fait, c'est devenu limite.
un point d'intérêt de la ville de Maisons-Alfort, tu vois, il y a des gens qui traversent parfois la ville pour aller au poulet, parce que
je l'ai vu dans les stories de Daz, tu vois. En fait, montrer ça, c'est du quotidien, mais j'ai pas l'impression que c'est de l'intimité, tu vois.
Non, mais ça participe quand même un peu à ça.
Mais... Ouais, mais ça crée justement un univers, ça crée un genre.
Je sais, mais tu vois. Donc c'est un peu la démarche que je critique d'une certaine manière, mais
et aussi, qui pourtant est intéressante
et qui est utile, c'est qui est essentiel, j'ai envie de dire, même
comme, moi, comme pas d'habitude, mais comme d'habitude en fait c'est une question de curseur.
Ça je suis d'accord avec toi.
Tu vois, c'est une question de curseur, c'est-à-dire que moi je vais manger au poulailler et je parle de la ville de Maisons-Alfort dans mes stories, ouais, et j'en rigole et ça devient quelque chose qui fait partie de mon univers.
Mais tu sais qu'il nourrit aussi l'attachement de ta communauté et qui te bénéficie
mais du coup,
en réalité derrière.
Mais
en
non,
termes
mais c'est
de
très
free,
cool.
Etc., ouais.
Mais c'est très cool. Par contre, si jamais j'ai une visite médicale ou je vais chez le docteur, je suis pas en train de filmer la salle d'attente.
J'espère bien.
Tu vois, c'est-à-dire qu'il faut aussi que tu saches positionner le curseur sur qu'est-ce que je donne à voir et jusqu'où j'ai envie que les gens aillent dans mon vécu, tu vois. Mmh. Et c'est la même chose avec les marques. Jusqu'où t'es prêt à aller pour toucher cet argent.
Je comprends.
Tu vois. Et c'est un truc constant, c'est une lutte constante, c'est des remises en question constantes, et il faut à chaque fois, enfin, tu vois, c'est pas, t'as pas une ligne de conduite que tu suis comme ça, qui vente, qui pleuve, qui neige. En fait, ça des trucs où, ce jour-là, tu seras comme ça, sur l'OP d'après, tu seras comme ça, et en fait, c'est, tu vois, ça sera toujours, variable, en fait, ouais, et c'est normal, parce que tu peux pas être monolithique, dans ton vécu, quoi.
Bon, on va pas non plus mais on continue un peu quand même notre petit bilan, tu vois, là, des 25 épisodes. On n'a pas parlé de l'épisode avec Robin Note, par exemple, tu sais, qui accompagne, qui est pianiste,
Ben Mazuet,
excellent pianiste. Ben Mazuet,
il a fait tourner, bien sûr.
Il est aussi prof au conservatoire et tout. Tu sais que je suis allé le voir avec son groupe Panam Panic, au Duc des Lombards, il y a quelques mois maintenant.
Ouais.
C'était très très bien. Il fait du jazz. Assez funk aussi, tu sais, accessible.
Ouais.
C'était ultra stylé. C'était très très bien.
Ouais, mais c'était un bon épisode aussi avec Robin. C'était dans les premiers.
Et Robin, c'était l'épisode 33.
Ouais, c'est ça. Donc.
Et Robin, c'était un des premiers aussi. Avant même que je lui lance l'invitation, il m'avait écrit, mais genre des mois avant, en me disant, pour faire des retours sur l'émission. Tu vois, pas genre, j'avais même pas encore écrit tu veux venir et tout.
Ouais.
C'est de lui-même, il dit, ah, j'ai découvert, ça c'est bien, etc. Puis après, à chaque épisode, il m'écrivait en me disant ce qu'il avait aimé, ce qu'il avait moins aimé aussi. C'est un type un peu critique, un peu acerbe parfois, Robin. Et donc, en fait, on échangeait sur le podcast comme ça, jusqu'à quand je finisse par l'inviter.
Très bien, ouais.
Mais ça a été un des premiers comme ça, c'était rigolo. Et l'épisode d'après, l'épisode avec Luc Frelon.
Bah oui, putain, j'y pense.
Programmateur chez FIP.
Programmateur chez FIP, incroyable aussi, ça.
C'était. T'avais kiffé?
Bah ouais, de ouf. De ouf, parce que déjà il y a un attachement personnel à FIP de manière générale par rapport à l'histoire de ma famille et tout, et enfin savoir comment ça fonctionne dans un monde où justement tout est algorithmique, et tu vois, c'est super intéressant de voir que c'est les artisans, tu vois,
parce qu'on
avec les mains pleines de terre.
Ceux qui l'ont raté, donc ce 34e épisode, on parle donc avec Luc qui est programmateur de FIP, et en fait la spécificité de la programmation, comme le dit Daz, c'est que c'est pas numérique,
c'est-à-dire rien.
Sont 6 ou 7 programmateurs, je crois. Non, peut-être pas. Si, c'est, je crois que c'est à peu près ça. Bref, chaque jour, des humains font des heures de programmation musicale où ils choisissent chaque morceau, lequel je mettrai après, etc.
Mais avec des règles.
Avec des règles. Rappelle-nous les règles.
Et tu n'avais pas le droit de positionner un morceau qui avait été joué dans les heures précédentes ton segment.
Ouais. Et surtout, plutôt, plus que tu n'as pas le droit, il y a des trucs où tu dois. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un lien déjà obligatoire. Entre les morceaux.
Oui, et en plus, les morceaux doivent s'enchaîner de manière logique.
Et alors, la logique, ça peut être parce qu'ils sont de la même année, parce que c'est le même interprète, parce que dans le titre, il y a une référence à machin. Ça peut être tout. Juste une petite connexion.
Il faut un petit lien, en fait. Ou alors,
ça peut être la tonalité.
C'est le même instrument. Ou alors, c'est une version qui a été réorchestrée d'un autre truc. Voilà. Mais ça, c'est un peu obvious. Mais ouais, en fait, il y a plein de règles. Et les gens rentrent ça, et donc chacun doit faire, je sais plus c'est quoi, c'est 2 heures. Hein.
Je me demande si par jour.
C'est un segment de 2 heures en fait, que chacun doit faire.
Un truc comme ça. Oui, t'as raison. C'est pendant 2 heures d'affilée.
Et du coup, ils ont un logiciel, je sais plus, il dit le nom pendant l'émission, mais dans lequel tu rentres ton truc et qui te montre si tu as justement. Ce titre-là qui a déjà été sélectionné par quelqu'un d'autre ou machin, histoire d'éviter les doublons, les machins. Et franchement, c'est super intéressant, en fait, de voir que, en fait, le tout algorithme,
Il a ses limites.
Ça a des limites, effectivement, et que...
du moins qu'il y a des atouts, à ce que ça soit encore des humains, parfois, qu'il faut...
Bah ouais, ne serait-ce que justement pour découvrir des nouveaux trucs et, ouais, et pas t'enfermer dans, dans ta bulle...
Bah, si vous voulez une alternative à la suggestion des plateformes de streaming, par exemple, écoutez FIP. Moi, à chaque fois que j'écoute FIP, et je l'écoute régulièrement, franchement, une fois sur deux, sur une session d'écoute, je sors un moment mon Shazam et je récupère des morceaux. Hein. C'est un truc de ouf. C'est ouais, trop bien pour découvrir de la musique. Et puis en plus ils ont leur radio thématique si vous voulez,
ouais,
parce que c'est très éclectique, c'est vrai, l'antenne principale.
Oui, c'est ça.
Et si vous voulez,
mais après c'est éclectique, mais tu sais, je crois qu'ils doivent pas faire de trop gros contrastes non plus.
Oui,
c'est-à-dire qu'ils doivent travailler petit à petit.
Et puis adapter aussi aux
heures. Tu peux passer de la soul music au métal, mais tu peux pas passer comme ça. Il va falloir qu'on t'emmène à chaque fois sur le chemin pour que, à la fin, t'es là, tu fais putain, mais j'écoute du métal, tu vois. Et en fait, t'as pas vu la transition.
Ah ben, bah, en plus pour Luc, le métal c'est quelque chose.
En plus parce que lui, il s'occupe du métal.
Tu sais que ils ont fait, je vous invite à aller voir, ils ont fait des séries vidéo récemment, FIP Metal, pour FIP Hip Hop aussi. Où en fait ils vont, c'est des petites séries documentaires et assez cool sur le métal par exemple. À un moment, c'est sûr, qu'est-ce que c'est qu'un riff, c'est quoi pour toi le riff le plus, le plus majeur, et ils vont interviewer plein de mecs du métal en mode bon, tu vois, c'est des petites pastilles de quelques minutes, et ils en ont fait aussi ultra stylé sur le hip-hop. Et tu sais, j'arrive même plus à me rappeler, mais je sais que la dernière que j'ai vue, j'ai trouvé incroyable. Ils vont demander à des rappeurs quels sont les morceaux de rap qui les ont matrixés plus jeunes, tu vois. Et génial, par exemple, tu vois, comme pastille. Donc bref, je vous invite à aller voir ce que fait FIP, même y compris en vidéo depuis peu.
Sur leur site aussi, voilà. Ne pas uniquement ce qui passe sur la radio, mais tout ce qu'ils proposent à côté.
Tout à fait.
Est-ce que ça serait pas une transition incroyable, puisqu'on parle de musique
et de vidéo,
pour justement passer sur
David et John Gitlis, HK Corp.
Bah bien sûr, HK Corp, incroyable.
Et tu sais que ça m'a fait un petit truc parce que comme quand on avait reçu, alors t'étais pas encore là, Parawan, bah une danseur, j'ai écouté ça au collège. Et de recevoir des gens, c'est quand même, il y a un truc bizarre qui se passe dans ces métiers comme cela.
Et ce qui est marrant en plus avec eux, c'est que à aucun moment ils essaient de se convaincre de quelque chose par rapport à ce qu'ils ont proposé. C'est-à-dire que moi je m'attendais à avoir des mecs qui disent oui, mais nous, tu vois, ce qu'on veut dire, c'est qu'on a ramené quand même une vibe qui n'existait pas. Eux, ils sont non, on s'est fait complètement matrixer par MTV, on a vu les Américains, on leur dit on fait pareil, tu vois. Et en fait, je trouve cette approche là tellement transparente que ça en devient un point fort, tu vois.
Bah il y a un truc marrant chez eux, c'est que à la fois c'est des grands chefs d'entreprise aussi, hein, parce que derrière ils ont monté donc la boîte après l'expérience Enhancer, donc vous faisiez de la musique qui a marqué le néo-metal français à une époque. Ils ont monté une boîte où, en fait, ils ont commencé à faire des clips, et derrière cette boîte est devenue extrêmement importante dans la production audiovisuelle HK Corp. Alors ils ont fait du clip pour Booba, pour Orelsan, pour Stromae, et puis ils sont même allés aux États-Unis, ils ont fait du clip, enfin de la vidéo pour Billie Eilish, du clip pour John Mayer.
J'ai participé à un clip d'HK Corp.
C'était pour qui?
C'était pour une artiste que je me rappelle plus comment elle s'appelle. Une petite meuf qui chantait très bien. Ambre, c'était Ambre.
Très bien. Voilà. Et donc, ils ont à la fois ce côté chef d'entreprise, et quand tu montes une boîte qui marche aussi bien, c'est que t'es aussi un mec qui pense au business, tu vois, forcément. Mais en parallèle, quand ils parlent effectivement des danseurs, et je pense comment ils l'ont vécu, c'était en mode, vas-y, en fait, on cherchait pas à faire de la grande musique ou quoi que ce soit, mais à s'amuser entre potes.
C'était YOLO, en fait.
Ils pensent avoir marqué une petite époque, mais ils se racontent pas aujourd'hui en disant, oh, on était pionniers, précurseurs, je sais pas quoi.
En fait, c'est ça que j'ai apprécié. C'est que je m'attendais peut-être, inconsciemment, parce que j'ai, comme pour tous les trucs que je connaissais pas, je m'attendais à avoir des gens, tu sais, qui auraient peut-être essayé de surintellectualiser leur approche musicale ou machin, en mode, oui, tu sais, on s'est décidé que il y avait de bonnes vibrations, donc on a décidé de montrer ça au public. Non. Les mecs, ils ont dit, waouh, on l'a pris en pleine gueule, on a dit, waouh, faut trop qu'on fasse pareil, alors on a fait pareil. Voilà. Et en fait, cette approche-là, moi, je la trouve tellement cool. On va entendre.
C'est vrai. Après, c'est un truc aussi avec du recul qu'on peut se dire, tu vois, c'est, ils en jouent aussi un peu de ça, je pense, quand même.
Oui.
Parce que c'est des professionnels, comme je disais, qui aussi dans le business sont bien installés, qui ont le nez creux, qui sont fins.
Oui, donc ils se sont dit, on peut jouer le décalage avec.
Je peux pas imaginer, tu vois, que, y compris quand ils faisaient de la musique, je pense que David en particulier a toujours eu ce regard un peu, tu vois. Donc, c'est à la fois des mecs cool. Mais qui parfois, avec cette image cool, je pense, essaye aussi
de
faire oublier que, hey, mec, on sait aussi ce qu'on fait, tu vois.
C'est des squales, bien sûr, mais je trouve ça justement bien, tu vois.
Oui,
absolument. C'est des squales. C'est des squales cool. Des squales.
Je suis bien d'accord. Et en l'occurrence, ça avait été compliqué de les faire venir, notamment David parce qu'il vit aux États-Unis et que, bon, honnêtement, j'avais dû le harceler. Mais ça s'était fait au final, tu vois. Ouais. Ils étaient venus en mode à la cool, juste à deux et tout, alors qu'ils font un truc assez fat quand même.
Ouais,
tu vois.
Non, franchement, c'est vrai que c'était.
Ils s'étaient rendus disponibles et tout. Hein, j'étais
très sympa, très belle émission.
Ouais. Julien Bitoun aussi qu'on avait reçu dans l'épisode d'après, on avait parlé de country et tout. Alors,
bien sûr.
En l'occurrence, bon, on va pas rester très longtemps sur cet épisode, mais quelqu'un d'extrêmement compétent, cultivé, érudit, vraiment à suivre Julien, son travail, Julien Bitoun.
Moi, j'ai un de mes cousins qui me parle de cette émission.
C'est vrai?
Ouais, parce que c'est un mec qui est guitariste, bassiste, qui est dans le rock, le blues, machin et tout, et qui m'a dit « Waouh, vous avez eu Julien Bitoun, c'est incroyable !» Je le connaissais pas avant que j'arrive, mais ouais, tout à fait.
Bon, en tout cas, quelqu'un de qualité à suivre, Julien, et l'épisode, j'en suis très fier aussi, parce qu'on avait parlé du patrimoine aussi de la musique, tu sais, comment il faut préserver des choses, comment il y a des histoires anciennes, comment la musique s'inscrit dans un contexte social, historique, etc. Moi, j'adore ces aspects-là. Donc Julien Bitoun, allez le suivre. Bon, ensuite, il y a eu les épisodes 10h, avec Raph Dacruz, évidemment, 38. Ouais. Sur les esthétiques du rap. On était revenus sur les grands mouvements. Super épisode aussi. J'aime bien ces épisodes un peu somme, tu sais. Ils sont un peu costauds, mais t'as un bon panorama une fois qu'on sort.
Non, et puis Raphaël Dacruz, mec compétent. Donc,
tu sais que, bon, je tease un peu, mais on essaie de faire des choses avec Raph et monte le son.
C'est vrai?
Ouais.
Ah, c'est cool.
On verra si ça se fait complètement.
Ouais.
Mais on essaie de bosser ensemble.
Ça va parler sampling, je
sais. Ça va parler sampling. C'est possible. Luxley, on en a déjà parlé. Ouais. Fishback, on l'a juste rapidement évoqué, mais ultra content aussi cet épisode parce que c'est une sacrée meuf en fait.
C'est
con, mais cet épisode, je l'aime beaucoup parce que quel personnage.
Mais la meuf est ultra cool.
Trop sympa déjà, effectivement. Ouais.
Et puis, même par rapport.
Une humilité incroyable.
Ouais, en fait, son approche artistique aussi, ultra grounded en vrai. Tu vois, c'est très la tête sur les épaules. Alors que ce qu'elle produit, tu vois, ça peut sembler un peu barré, évanescent, tu vois.
Ouais, et en même temps, elle a aussi des tubes pop. Enfin, tu vois, elle a cette double facette.
Mais pareil, en fait, moi j'aime bien les gens qui font pas de chichi par rapport à comment ils envisagent la musique, alors qu'ils en font et qu'ils en vivent, tu vois. Donc elle, tu pourrais t'attendre à ce qu'elle te dise, oui, moi il faut que je suive ma routine habituelle pour être dans un mood créatif. Et non, pas du tout. En fait, moi j'ai ma souris, je déplace des rectangles et ça fait du bruit, tu vois.
De toute façon, elle c'est une meuf plein de contrastes artistiquement aussi intéressante parce qu'à la fois un côté punk.
Ouais.
Franchement, tu vois, elle a un côté un peu déluré, tu vois.
Ouais, justement.
En même temps, elle a plein de références très pop, etc.
Je te dis, elle a une approche très très simple, voire simpliste.
Mais justement,
de ce qu'elle fait, comment elle le fait.
Il y a du contraste aussi dans. Parce qu'elle a du recul sur ce qu'elle fait.
Ouais.
Et à la fois un côté intello, un côté complètement détendu.
Ouais. Quand elle a dit texto, moi, mon taf, quand je fais de la musique, c'est de mettre des petites briques, de les arranger pour que ça fasse une mélodie. Tu fais, je m'attendais à ce que tu me parles de ressentir la musique, etc. Et en fait, c'est trop cool d'entendre des gens qui ont cette capacité-là à prendre du recul sur ce qu'ils font et justement à le rendre complètement normal, tu vois, ne pas over-dramatiser le truc en mode, la création et tout. Non, je trouve ça chouette. Vraiment, je trouve ça super cool.
Et comme je le disais tout à l'heure, quelqu'un qui suivait notre travail déjà et qui était ultra enthousiaste quand on lui a dit qu'on l'a invité, donc ça fait trop plaisir.
Ouais.
Épisode avec Bovary derrière, on a parlé de TikTok dans l'industrie musicale. Sujet essentiel, on vous invite aussi à aller voir cet épisode pour comprendre un peu. C'est pas juste, il y a des tubes qui se créent sur TikTok. Hein.
Non, c'est TikTok est une part réelle et complète de l'industrie de la musique
tout à fait.
En 2023. C'est inévitable.
Ouais.
En fait, donc on a parlé de la musique avec Pierre Lapin sur Twitch, mais là quand on parle de la musique avec Bovary sur TikTok,
c'est encore autre chose parce que c'est un acteur de l'industrie musicale.
C'est que TikTok est réellement pris en compte par les maisons de disques pour la promo et tout ça quoi. Donc c'est un autre niveau, c'est pas de la consommation, c'est réellement rentrer dans le processus marketing.
Absolument.
Il faut que les gens soient sur TikTok. Et on avait parlé justement des réseaux sociaux avec Fishback.
Oui.
Justement, on lui avait demandé, mais tu les gères toi-même et tout. Et elle m'a dit, oui, encore. je les gère encore moi-même, mais c'est vrai que des fois,
c'est un peu lourd.
C'est un peu chiant. Et
dans l'épisode spécifiquement sur TikTok avec Bovary, on avait donné des exemples de ces artistes, y compris des grands artistes américains, ouais, etc., qui en fait ont l'impression qu'on les force, entre guillemets, à faire des TikTok, etc., et qui n'ont pas forcément envie de le faire, quoi.
Ouais, et ce que je comprends tout à fait. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est ce qui permet aussi à certains artistes de sortir de l'oubli dans lequel ils étaient plongés depuis 25 ans, 30 ans, tu vois. Et d'un seul coup, de tout péter auprès d'un public qu'ils auraient jamais été capables de toucher autrement. Et ça, c'est ouf.
Ouais, 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 on donne
parle,
des exemples
qu'on parle de Kate Bush ou de Fleetwood Mac ou de trucs comme ça. Je veux dire,
Netflix, Kate Bush beaucoup aussi quand même.
Hein. Oui, Netflix. Mais, mais après, tu vois, c'est un gars qui prend un extrait, qui le met sur son TikTok,
ouf, ça le rend viral,
ça crée
beaucoup
une trend
plus.
Et tout le monde le fait. Et je trouve ça ouf parce qu'effectivement, qui écoute Kate Bush? Chez les petits, non, mais chez les petits entre 12 et 16 ans, qui écoute Kate Bush?
Personne,
tu vois. Donc, ou Fleetwood Mac, encore pire, tu vois. Et je trouve ça trop bien. Si c'est un moyen pour que, justement, faire partager des trucs à la jeune génération, sans avoir, tu sais, l'impression de les scouler un petit peu en mode, je vais vous montrer c'est quoi la vraie musique, tu vois. Parce que c'est chiant, en vrai.
Non, il faut que ça en parle eux-mêmes, effectivement.
Ouais, franchement, très bien.
Bon, l'épisode ensuite, le 42e. On parlait d'épisode Somme. Alors lui, il est costaud, honnêtement.
Ouais, mais alors, quand tu t'intéresses un peu à l'industrie musicale, putain, t'apprends 3 milliards de plats, bah oui, les distributeurs. Ah bah ouais. Sur la distribution avec Big Wax, distributeur à la fois physique et numérique.
Qui, en fait, c'est un métier un peu plus méconnu, un peu de l'ombre dans l'industrie musicale, alors qu'il est absolument essentiel, parce que, en gros, s'il y a des morceaux disponibles en streaming sur les plateformes, et surtout s'il y a des disques dans les magasins, des vinyles, etc., c'est parce qu'il y a un distributeur. Et en fait, ils sont centrales et ils font plein de choses. Il y a aussi tout ce qui est le D2C de plus en plus, c'est-à-dire où les artistes ou les labels eux-mêmes créent leur magasin en ligne avec les CD, mais aussi le merch. On a parlé de merch aussi.
Les t-shirts et machin.
Ouais, si vous voulez comprendre un peu comment fonctionne l'industrie musicale aujourd'hui, épisode essentiel. Big Wax.
Très bon épisode,
42e.
Ça aussi, c'est justement ce que j'aime dans DLT, c'est que c'est vraiment les métiers de l'ombre.
Ouais.
Et je trouve ça trop cool qu'on digue un petit peu ces sujets-là et. Comme le truc avec Deezer, tu vois, c'est vraiment en fait c'est là tout le temps et on s'en rend pas compte.
Ouais.
Et en fait quand il t'ouvre la porte et qu'on t'accompagne, tu fais waouh, ok, je le voyais pas du tout comme ça, super, vraiment ouf.
Il reste plus qu'un épisode qu'on n'a pas évoqué parce que les autres là, tu vois, chronologiquement, on en a déjà parlé. Autre épisode Somme dont je suis extrêmement fier avec nos amis Rafik Djoumi et Olivier Desbrosses.
Bien
Total
sûr.
Total Tracks sur la
bien
musique
sûr.
De film.
Ouais.
Alors toi t'avais kiffé?
Ouais, j'avais kiffé. Bah oui.
Déjà, à qui ça ne parle pas la musique de film?
Ouais, surtout celle de Predator.
Je m'en rappelle. Oui, running gag, bien
ouais,
sûr.
Ouais, ouais. Non, mais ouais, c'était super intéressant. Et là encore, tu vois, c'est ça que je trouve trop cool quand on interroge des gens qui vraiment sont à fond dans les sujets. C'est que, tu vois, ils nous ont fait des ponts entre les différentes époques, tu vois, et t'écoutes un truc de 92 et on t'explique que ça reprend un motif de 1936, tu vois, et t'es là, tu fais putain!
Complètement. Ils sont attachés à cette idée de grande histoire, en fait, tu vois. Et d'ailleurs, on avait fait, c'était une approche un peu chronologique, en fait, des débuts de la musique au cinéma jusqu'à quasiment aujourd'hui. Quels sont les grands trucs marquants? Quelles évolutions? Les grandes écoles?
C'est dommage qu'on l'ait fait avant, parce que là, je suis allé voir Oppenheimer.
Ouais.
Et du coup, je pensais beaucoup à eux pendant tout le film.
Tu sais que c'est pas Hans Zimmer dessus. Hein.
Non. Mais par contre, c'est Göransson, je crois.
Ouais, exactement. Dont je parle beaucoup dans le podcast, parce que je l'adore.
Bah, c'est le mec qui fait le Mandalorian.
Absolument.
Notamment, qui a repris, du coup, un truc. Mais non, ce qui est intéressant dans Oppenheimer, justement, c'est que la musique est présente pendant tout le putain de film. Tout le temps.
Trop.
Tout le temps. Limite, c'est une comédie musicale, le truc. Mais c'est parce que le sujet est tellement deep que je pense que si t'enlèves la musique, les gens s'endorment. Donc, t'as un souffle épique, en fait, à chaque fois qu'il y a une ligne de dialogue, parce qu'il y a de la musique derrière. Et au bout de 2 heures de film, je fais, mais attends, il n'y a pas de la musique tout le temps là-dedans. Et franchement, j'aurais adoré parler de ça avec Rafik et Olivier. Ça aurait été vraiment cool.
En tout cas, voilà, si vous vous intéressez à la musique de film, regardez cet épisode, et même de manière générale, suivez le travail de Total Tracks, de Rafik Djoumi et d'Olivier Desbrosses. Même le travail sur le cinéma de manière générale de Rafik, parce qu'il fait pas que la musique. Olivier, vraiment, c'est le mec qui se bute essentiellement à la musique de film.
Ouais.
Rafik, dans son quotidien, il y a aussi beaucoup de critiques, de machin, etc., sur le cinéma de manière générale, pas que la musique.
Moi, je le suis sur Twitter. Ouais. Je le suis sur Twitter.
Des gens de qualité.
Souvent, à l'issue d'une émission, ça se termine par un follow Twitter ou un
Il faut.
Globalement.
Et ça, c'est un truc d'ailleurs. Et ça y est, on a parlé tous les épisodes. Ouais, j'avais parlé des rencontres en fait.
Ouais.
Parce que tu vois, c'est comme on parlait des influenceurs, enfin, ou des créateurs de contenu vis-à-vis de leur communauté. On va pas mentir, on devient pas pote avec les gens qu'on reçoit.
Globalement. Non.
Non. Par contre, hormis quelques rares personnes, où parfois il arrive qu'il y ait un truc qui se crée, mais en fait c'est une minorité, des gens vraiment que tu vas recroiser après, mmh. machin, etc. Par contre, tu t'entends bien, tu te suis, t'échanges un peu, etc. Et ça, c'est vrai que c'est très appréciable de pouvoir croiser les gens, des relations humaines aussi, quoi, c'est essentiel. Mmh. Mais pas dans l'objectif de se faire des potes, parce que si tu fais ce métier pour ça, déjà, t'es mal barré.
Oui.
Et en plus, ça se ressent ensuite après dans ton rapport à l'autre, dans l'entretien, dans l'émission et tout. C'est pas ouf, faut pas vouloir être pote avec les gens. Faut vouloir bien s'entendre et tirer du bon contenu d'eux. Sur le moment, puis ensuite essayer de rester en contact. Et s'il doit y avoir des trucs qui se passent bien,
oui, tant mieux. Si on s'entend bien avec des gens, c'est la vie qui passe. Hein, mais moi, de toute façon, les trois quarts du temps, je les connais même pas, les gens. Ouais. J'arrive, j'ai pas entendu parler de ce qu'ils font ou de ce qu'ils faisaient. Au mieux, je me suis un peu informé vite fait pour avoir du contexte. Ouais. Mais globalement, j'apprends à les connaître, à les découvrir
sur le moment.
Directement pendant l'émission. Donc, oui. Mais c'est vrai que tu as parfois des rencontres qui se passent vraiment très bien, ouais. où les gens justement restent parfois longtemps avec nous après l'émission pour discuter d'autres choses en plus.
Tu vois, c'était le cas de Rafik et d'Olivier par exemple. Ouais. Alors qu'on pourrait se dire, parce qu'on n'est pas exactement de la même génération, tu vois, non. avec Rafik et Olivier. Et en fait, on reste parce qu'on parle, il reste parce qu'on parle de plein de trucs et tout. On a parlé de tout sauf de musique et de cinéma d'ailleurs après.
Ouais.
Ou moins en tout cas que avant et dans l'émission. Et moi j'aime bien ce côté-là. Et tu découvres des personnages aussi.
Des personnages et puis des anecdotes.
Tu vois, Olivier c'est un personnage. Et par exemple, moi je suis impressionné. Parce qu'on avait terminé sur cet épisode-là. Hein. Le type, sa passion c'est la musique de film. Il a rencontré, interviewé plein de compositeurs de musique de film.
Mm-hmm.
Et je pense pouvoir dire que c'est pas un mec qui roule sur l'or, tu vois, Olivier. Ouais. Il a jamais fait ça pour l'argent. Et je pense qu'il aurait. S'il avait pensé à ça, il aurait fait d'autres choix de carrière.
Mmh.
Et le mec, parce que c'est son l'amour de sa vie, je pense, tu vois, la musique de film, eh ben, il donne tout. Il se casse le cul. Pour, au final, certainement en vivre. Mais tu vois, je pense pas que c'est...
Oui, c'est pas...
C'est pas la richesse, tu vois. Ouais. Et le mec, il va, quoi, par passion.
Mmh.
Et tu vois, on a plusieurs personnes qu'on a reçues comme ça dans l'émission. C'est les mecs, tu peux pas remettre en cause leur passion. Et c'est pour ça qu'ils sont si... bien dans ce job après en tant qu'invité.
Bah c'est ça, c'est qu'ils font le truc parce qu'ils aiment le truc avant de se dire il y a de l'argent à se faire dans le truc, tu vois.
Ah.
Et il n'y a pas de mystère en fait. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux plus jeunes, tu vois, de ma famille, les petits cousins, machin et tout, c'est fais pas un truc pour être connu.
Mmh.
Fais le truc comme tu as envie de le faire et si ça marche bien, tu seras connu, tu vois. Mais c'est la célébrité ou la richesse, c'est pas une fin en soi, tu vois.
Bien sûr.
D'abord, il faut que toi, tu aies envie de transmettre des trucs ou de faire découvrir des trucs, tu vois. C'est un peu con, hein, quand on dit comme ça, mais en vrai, est-ce que c'est pas l'essentiel de la vie, faire les choses parce qu'on aime les faire?
Bah, je crois. Hein.
Pas parce c'est mieux. Qu'on doit les faire ou pas parce que.
Après, il y a des.
Veut faire de l'argent.
Il faut un peu de contrainte parfois. Tu vois, il y a des trucs qu'on les fait, même si ça nous fait pas plaisir, parce qu'il faut les faire, tu vois.
Ouais.
Mais dans la mesure du possible, faire les trucs par plaisir.
Oui, mais l'URSSAF, tout ça, c'est encore autre chose. Tu vois. Ça, c'est
non mais genre le ménage tu vois c'est pas ma passion de faire le ménage
bah, oui,
faire tu vois
bien sûr, voilà, bien sûr. Bon. Oui non, mais d'accord là, tu peux... mais encore peut-être qu'on pourrait faire un format tu parles de musique pendant que tu fais le ménage ou quelle musique tu utilises
non mais le seul truc qui me fait passer le ménage c'est que je mets des podcasts tu vois comme ça pendant parce que sinon c'est l'enfer ou comme faire la vaisselle tu vois
bah, faire la vaisselle je sais pas moi j'ai un lave-vaisselle donc,
moi j'en ai un depuis peu là
ouais.
C'est l'avantage d'être à Aubervilliers maintenant tu vois.
Bah, ça change tout hein. Ça va changer ton rapport à la vie tu vas voir c'est incroyable. Il y a un avant et un après.
Il y a un avant et un après.
Ah,
ouais.
Oui. Ah, oui.
Pour l'instant, j'apprécie en tout cas. J'aime. Toi, qu'est-ce que tu espères pour le futur?
Pour le futur de DLT,
ouais.
Toujours plus de découvertes et d'émerveillement. Parce que vraiment, je prends beaucoup de plaisir et je fais plein de trucs à côté. Hein. Mais DLT, c'est toujours un kiff de venir à l'émission. Déjà parce que l'équipe est ultra cool, que la bouclette, c'est la maison et tout. Tu vois, et en fait, je suis content qu'il y ait ce rapport-là aussi avec tout le monde, avec le staff, tout ça. Et je sais que à chaque fois je vais apprendre des trucs, tu vois. Donc moi j'y vais, je suis très content. Et tu vois, même ma fille, elle est contente de venir. À la
elle réclame.
Ouais,
c'est incroyable.
Même ma fille, elle dit, on va à la bouclette. Non, c'est pas la bouclette aujourd'hui. Oh, non. Oh.
Et on lui inflige pas ça à chaque fois, hein, mais de temps en temps, l'enregistrement, elle est là.
Ouais, de temps en temps, elle vient et c'est cool, tu vois. Et elle est contente et je lui dis, là, tu te rends pas compte des gens qu'on a reçus là, en fait. Je crois que tu réalises pas à côté de qui t'étais, en fait. Mais plus tard, tu vas te retrouver à écouter de la musique et tu vas dire, ah, ça alors! Mais c'était eux! Ah, bah, d'accord. Mais non, voilà. Donc, pour le futur, bah, toujours plus de kiff comme ça. On a dit qu'il fallait qu'on mette l'accent aussi sur la présence féminine.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est super important.
Complètement. On a fait un tout petit peu mieux à la fin de la saison, en recevant Roda, en recevant Anne-Claire.
Ouais.
J'ai lancé d'autres invitations à des femmes, ça s'est pas encore fait.
Mais
évidemment, c'est un défaut de l'émission.
Et puis, du coup, il faudrait qu'on arrive justement à renforcer la mixité. Et
oui.
Puis, après, moi, sur le format en lui-même, je trouve qu'on l'a rendu plus cool avec les extraits musicaux, plus vivants.
Les recos aussi, je crois qu'on le faisait pas.
Les recos, c'est aussi...
Je sais pas si c'est arrivé quand, les recos.
Bah, quand je suis arrivé.
Ouais.
C'est moi qui l'ai proposé, encore une fois.
Il a des idées, cet homme.
Ça arrive. Hein. Une émission musicale. Et si on écoutait de la musique?
Chose
qu'on n'a pas fait depuis 2h03.
C'est vrai. C'est un épisode spécial.
C'est un épisode spécial. Non, après, moi, vraiment, sur la forme et sur le fond, je trouve que on est bien. En vrai.
C'est déjà abouti.
Non, c'est pas que. Non, mais t'arrives jamais, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, il n'y a pas énormément de trucs que je vois qu'il faudrait changer.
Je suis d'accord.
Tu vois, en fait, qu'après on améliore encore la recette, la formule et qu'on progresse à chaque émission, c'est cool, tu vois. Mais là, comme ça, je pourrais pas te dire, ah non, ça, il faut qu'on arrête de le faire ou ça va pas.
Moi,
je
suis d'accord. Je trouve que ça a été des grands ajouts, les recos et les extraits musicaux surtout tout au long de l'épisode. Sur des trucs comme le reggaeton ou le R&B français, on l'a bien vu, ou la musique de film. Sur ce type d'épisode, tu le vois de ouf. Je suis content aussi de la régularité.
Ouais.
Parce que
c'est pas facile hein, avec les artistes.
C'est pas évident, mais on a tenu parce que regarde, t'es arrivé en juin 2022.
Ça fait un an.
Ça fait un an et un mois, deux mois, tu vois, un truc comme ça. Et 25 épisodes, 12 mois, deux épisodes 50, par mois, 24.
52 semaines.
Enfin, tu vois, on a tenu notre rythme de deux épisodes par mois.
Ouais.
Ce qui est le deal qu'on a avec vous, hein, c'est tous les 15 jours, il y a un nouvel épisode de DLT.
Ouais.
Donc ça, j'en suis très content. Et pour l'avenir, en gros, c'est ça, plus de diversité, plus de femmes surtout, un peu plus d'artistes et des gens peut-être un peu plus stars entre guillemets, en plus de ceux qu'on reçoit déjà.
C'est pas pour plus gros en tout cas.
Mais plus gros pour pouvoir mettre ces gens en fait dans un contexte un peu différent des médias, du traitement médiatique musical classique. C'est juste, j'ai envie de voir ce qu'ils ont à raconter, tu vois.
Et peut-être qu'on sera déçus.
C'est possible. Et d'autres, au contraire, on sera surpris, tu vois. De toute façon, on va appliquer la même recette pour booker les artistes, hein, même quand ils sont plus fat. Alors, tu peux être un peu moins exigeant, malheureusement, quand ils sont plus fat. Mais l'idée, c'est pas de recevoir parce qu'il est fat. C'est parce qu'il est, parce que potentiellement, il est intéressant, tu vois.
Oui.
Donc, quelqu'un qui a vraiment rien à dire, en théorie, on le retrouve pas, on l'a même pas cherché à l'inviter, tu vois.
Ouais.
Après, on peut avoir des surprises, t'as raison.
On peut avoir des surprises, c'est ça. Là. Moi, je suis fermé à aucune idée. Même si j'ai des a priori sur plein de trucs, tu vois. Mais je me dis, pourquoi pas? Vas-y, on teste et. Ça aussi, c'est peut-être mûrir, ça.
Mais.
Ne pas fermer la porte.
Ça s'agit sans cesse, on apprend.
C'est fou. Incroyable.
Passe au Rocco.
Ouais.
Les big Rocco bilan 2023, 2022-2023.